Bonjour et bienvenue à tous, habitués et nouveaux auditeurs venant du site Fan F1 pour cette nouvelle saison et nouvelle émission du service après-vente de la F1 consacrée cette semaine forcément au Grand Prix d'Australie. Enfin, après des mois d'attente, oui, la saison de Formule 1 a recommencé avec le Grand Prix d'Australie ce week-end. Un Grand Prix que l'on pourrait résumer à un mot. Et ce mot, ce n'est pas le mot hier, même si c'est un très joli mot. Non, ce mot, c'est le mot surprise. Des bonnes, des mauvaises, mais en tout cas, des tas de surprises que, bien sûr, nous allons décortiquer pendant cette émission. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, il est là, fidèle comme la scie, le chien fidèle.
Ouais.
Bonjour Dino.
Bonjour Sidney. Bonjour chers auditeurs.
Et donc, si vous avez écouté l'émission de précédent, vous savez qui est avec nous cette semaine. Je n'ai même pas envie de dire un invité, j'ai envie de dire c'est notre guest star de la semaine.
Oh là, c'est trop d'honneur.
Bonjour Fab.
Bonjour Sidney, bonjour Dino.
Bonjour Fab.
Alors, première question, il n'y a pas eu de souci avec le changement d'heure? Parce que c'était quand même un coup à rater la première heure de la course.
Ouais, ah ouais. J'ai prévu 10 alarmes sur mon téléphone portable. Sérieux, j'ai prévu 10 alarmes. Toutes les 10 minutes, ça a sonné. Pour être sûr. Comme ça, j'étais sûr que je couperais le décalage.
Il a pas dormi. Et donc, forcément, question traditionnelle, vos impressions sur ce premier Grand Prix de la saison?
C'était déjà mieux que Bahreïn l'an dernier.
Oui, largement.
Voilà, on a connu beaucoup mieux quand même.
Oui, mais c'est vrai que c'est un Grand Prix intéressant dans les questions qu'on se posait. Voilà. On a eu deux trois réponses, tout en sachant que ça sera bien sûr à pondérer vu le circuit.
C'est un Grand Prix lost, c'est-à-dire que t'as 2-3 réponses et après une dizaine de questions qui apparaissent quand même. Voilà.
Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin on sera déçu.
C'est que tant que c'est pas un Grand Prix d'Eric.
Peut-être. Non, ça c'était l'an dernier ça.
Et donc. Pour commencer, on va commencer par le début traditionnel du SAV de la F1.
Oh non. Non, je dis non, on avait dit tu fais un truc par an différent.
Moi je dis non alors que j'aime bien.
Bah voilà. C'est mon fan de l'éphéméride.
Ton fan F1 même.
Oh.
Oh.
Il est en forme Fab ce soir.
Et donc, nous étions le 27 mars.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
C'est bizarre parce qu'il m'a pas manqué ce jingle.
Non.
Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Fan F1 qui sont partis.
Éphéméride, la rubrique qui ne parle pas de F1, la rubrique d'ouverture d'ouverture.
Oui, voilà.
Parce qu'elle ouvre l'émission et qu'elle ouvre vers d'autres choses.
Waouh.
Ah d'accord.
C'est pour remplir vos petites têtes.
Si vous arrivez à gober ça.
Et pour le début de la saison, j'ai décidé de faire une petite spéciale. Oh. Hein, parce que le 27 mars, c'est un jour où il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'ai fait un tri. Et donc pour ce début de saison, j'ai fait une petite spéciale sport. Donc les événements auront un rapport avec le sport. Oh, voilà. Et on commence, donc forcément quand on parle de sport, on va pas parler de trucs chiants qui sont passés au 14e siècle.
Oh, quoi que.
Tu vois l'intérêt du truc.
La victoire au championnat de Velotte 1076, ou alors le champion du monde, le triple champion du monde du jeu de paume en 1627. Là quand même, faut quand même en parler, je pense vraiment. Le jour où il est mort, ça a quand même été dans le monde. Ça a quand même été quelque chose à Versailles. Les gens se disaient, oh, mais le champion du jeu de paume, il est mort, mais qu'est-ce qu'on va faire? On s'en fout, il était manchot, il avait plus de main.
Et on commence.
C'est con pour un champion du jeu de paume.
L'histoire du jeu. Bientôt le SAV, l'histoire du jeu de paume.
On commence en 1938 par la première course automobile officielle d'un pilote. Et ça s'est passé à Necochea. Le Grand Prix de Necochea.
Fangio.
Et c'est Fangio en effet. Grand Prix qu'il a fini 7e.
Il avait quel âge Fangio?
Oh, en 1938.
Il avait déjà une trentaine, hein. Pas loin en tout cas.
Il est né en 1911. Donc, il avait 27 ans.
Ouais, 27.
Enfin,
aujourd'hui, le mec qui fait son premier Grand Prix à 27 ans. Ouais. Ah, t'as vu, il y a un vieux dans le paddock.
Non, c'est Bourdais.
Et voilà. En 1955, c'est du cyclisme. Louison Bobet remporte la classique cycliste du Tour des Flandres. Je sais, vous en foutez. Mais ça
fait. Mais non, j'adore cette époque.
Louison Bobet au sommet du Ventoux.
Tu fais vachement bien. Moi, j'adore faire ça aussi.
Sinon, en 1968, Jim Drake et Oil Schweitzer déposent un brevet. Un brevet de quoi, d'après vous?
Le sifflet?
Il n'y a pas un brevet de sport.
Non. Un sifflet.
Le brevet du sifflet.
Le carton jaune, le carton rouge?
Non, non, non.
Le mec, il a déposé un brevet pour un carton rouge.
Ça, c'est aussi le jour du brevet de la scie circulaire, mais c'est pas ça.
C'est vrai qu'en sport, ça aurait été intéressant.
Attends, tu vois. Je vous donne un indice, c'est un rapport avec l'eau.
Le kitesurf, le...
Ah, t'es pas loin.
Tu bats?
Ah, t'es plus loin, là.
Le slip de bain.
Avant, il y avait pas de slip de bain.
T'es pas loin. Donc, je dirais, t'as un bout de l'invention.
Le surf, le...
La planche à voile.
Le kitesurf.
C'est la planche à voile.
Oh,
1960.
Quand même.
Tu m'as dit
le surf, la planche à voile, quand même.
Sinon, en 1976, première sélection en équipe de France de football.
Platini.
Ouais.
Platini. En 1993, encore un sportif français, c'est la skieuse française Carole Merle qui remporte la Coupe du Monde de slalom géant.
Je connais pas du tout,
tu vois. Oh, Carole.
Quand même.
Non, je connais d'autres noms de skieuses, mais Carole Merle.
En 1999, c'est la première sélection de Sylvain Wiltord en équipe de France. Ah. Bon, c'est moins prestigieux que Platini.
Oui. Quand... Un peu.
Et lui, il a pas marqué, parce que la France et l'Ukraine ont fait match nul 0-0.
Ah, c'est ballot.
Sinon, à noter, le même jour, c'est pas exactement du sport, mais ça a quand même une influence sur le sport.
On rappelle quand même, hein, n'est-ce pas, Fab, qui nous a annoncé une spéciale sport.
Laissons lui le bénéfice du doute.
Fusion par achat réciproque d'actions entre deux sociétés.
Oui,
oui.
Et ben, c'est la création de Renault-Nissan.
Ah ouais, c'est un petit...
Infinity.
En 2002, sinon, le maillot porté par Pelé lors de la finale de Coupe du Monde de foot Brésil-Italie en 1970, qu'il a remporté, a été vendu aux enchères. Alors d'après vous, combien on a vendu ce maillot?
Dans quelle devise?
C'est en euros.
200 000.
T'es pas loin.
250 000.
252 400 euros. Sinon, en 2004, le 15 de France, donc c'est du rugby, remportait son 8e Grand Chelem.
Ouais.
Dans le tournoi destination, en dominant l'Angleterre 24-21 au Stade de France.
Ah, c'était le bon vieux temps.
Oui, c'est ce que j'avais dit.
Ça paraît loin, hein.
Quelle belle époque.
Bon, on en a fait un l'an dernier, mais bon, quand même.
Et sinon,
oui, le Pays de Galles aussi.
Oui, voilà.
Ouais. En 2008, c'était le décès de Jean-Marie Balestre.
Ouais.
Donc, ex-président de la FIA, comme tout le monde sait. Et donc, en F1, ce jour-là, parce que quand même, on finit toujours par un truc de F1, même si on a déjà parlé de F1, dimanche, c'était un anniversaire. Et savez-vous de qui c'était l'anniversaire, dimanche?
C'est pas Coulthard?
Exactement. Coulthard qui a fêté ses 40 ans. Ça m'a surpris qu'ils en parlent pas pendant la course, parce qu'après tout, Coulthard, il est pas parti à la retraite il y a 30 ans, je veux dire, les gens.
Ouais, mais enfin, c'est-à-dire que Coulthard, déjà pendant les Grands Prix, on parlait pas beaucoup de lui, quoi. N'exagérons rien. Oui, mais bon, c'est réaliste.
Donc, revenons un petit peu sur la carrière de Coulthard, qui a commencé, on peut dire, sa carrière de la pire des façons.
Oui.
Puisque pilote essayeur Williams en 94, rappelons-le. Donc, qui a repris le baquet d'Ayrton Senna. Alors, pas au Grand Prix de Monaco, qui était juste après. Donc, ce week-end-là, Williams n'avait qu'une voiture, mais au Grand Prix d'après. Donc, en Espagne. Donc, il a fait la saison 94 chez Williams. Pas toute la saison, puisqu'il a dû céder sa place pour les trois dernières courses.
Mansell,
exactement. Mais, bon, ils l'ont quand même gardé l'année suivante, Coulthard. Ils ont viré Mansell.
Oui.
Qui ensuite a essayé de rentrer dans la McLaren.
Déjà, c'est...
Il est pas allé chez McLaren, il a essayé de rentrer dedans.
Ce qui est quand même l'exploit, c'est qu'ils aient réussi à virer Mansell. Il fallait déjà sortir de la voiture, quoi. Les mecs, ils ont... En fait, au premier Grand Prix, ils se sont dit, merde, faut qu'on le dégage, Mansell, etc. Puis les ingénieurs se sont dit, mais on peut pas le retirer de la voiture, on est obligé de le garder jusqu'à la fin de saison. Faut qu'on attende d'avoir une nouvelle voiture pour pouvoir sortir Mansell.
Et donc, lui, par contre, est rentré dans la McLaren en 96,
ouais.
Avec qui il est resté 9 saisons, ce qui est quand même, je veux dire, à part un cas comme Schumi qui est resté lui aussi quasiment peut-être 10 saisons chez Ferrari. Enfin, c'est rare, je veux dire, que ce soit dans la F1 moderne, et même la F1 de tout temps, rester une décennie dans une équipe, c'est quand même extrêmement rare. Et donc, finir sa carrière en 2005, en passant chez Red Bull, avec quand même peut-être là où sa carrière a basculé, c'est peut-être... au tournant des années 2001-2002, ces années où Hakkinen ne va plus très, enfin, va moins vite, on va dire, où lui commence à dominer, puis ensuite il y a Raikkonen qui arrive, qui est quand même un jeune pilote, où il fait quand même une deuxième place au championnat du monde en 2001. Donc il avait tout pour être.
Ouais, mais ça, ça a toujours été un numéro 2 de circonstance. Enfin, c'est un peu comme Irvine, quoi. Irvine, il a été, certes, il a été numéro 1 en 99, mais c'était par accident.
Ah oui.
Honnêtement, c'était pas forcément le pilote sur lequel compter pour Bas Schumacher à l'époque.
Ah non, non, tout à fait. Mais disons que c'est peut-être le moment où justement il aurait pu, et justement, comme tu dis, comme ce n'était qu'un, en effet, peut-être plus un deuxième pilote, bah c'est là que sa carrière a commencé à redescendre.
Ouais, et puis en plus, enfin, il y a eu tellement d'espoir qui ont été portés en lui à cette époque-là. Il était propulsé comme adversaire numéro un de Schumacher. Sauf que, honnêtement, c'était un bon pilote, mais il n'avait pas de niveau.
Et donc, de 2005 à 2008, 4 saisons chez Red Bull. Alors bon, il n'aura pas profité vraiment de l'explosion de Red Bull. Mais il aura quand même eu un rôle important chez Red Bull, parce que faut pas nier qu'il aura sans doute eu un rôle dans l'arrivée de Niue dans l'équipe.
Ouais, et puis même au départ, enfin même au tout début, il a quand même ramené une petite touche professionnelle. Quand Coulthard est arrivé chez Red Bull, faut quand même se rappeler que Red Bull c'était l'équipe un peu rigolote qui faisait beaucoup de com, qui faisait pas beaucoup de voitures. D'ailleurs, vous aurez les petites anecdotes sur Red Bull dans le guide du SAV de la F1. où j'étais plus connu pour les parties qu'il faisait après les Grands Prix que pour autre chose. Et quand Coulthard y est allé, il a peut-être aussi donné une image un peu plus sérieuse à cette écurie, parce que c'est une qualité de Coulthard, c'est qu'il a toujours paru sérieux, peut-être même un peu trop.
Oui. Ouais, mais il aura apporté leur premier podium, non?
Oui, à Monaco, en Superman.
À Monaco, oui, il me semble. Oui, voilà.
Alors Coulthard, on peut l'appeler le Stirling Moss de la troisième place. Il y a des gens qui sont
allez, soyons fous.
Non mais il a quand même fini 4 fois 3e du championnat et une fois en 2e place en 2001. Mais le truc le plus incroyable, c'est que David Coulthard, c'est quand même le type au monde qui a dû le plus rouler dans des voitures faites par Adrian Newey.
Mais il est jamais arrivé au bon moment, c'est dommage.
Hein. Et pas forcément les bonnes voitures, voilà.
Voilà. En tout, sur toute sa carrière, il a couru sur à peu près 19 véhicules, que ce soit en version normale, version B, on peut compter 19 modèles. Il n'a roulé que sur 4 modèles non Niue, on va dire.
Ça va.
Une bonne quinzaine d'années de carrière. Hein. Est-ce que vous vous souvenez combien de victoires il a?
12, 13.
Une dizaine.
Ouais, 13 victoires.
Ah, bravo.
Dont 11 sur des monoplaces d'Adrian Newey.
Il a gagné sur quoi d'autre alors?
Alors, 2 courses en 97 avec la MP412, et en fait, c'est d'accord, juste l'année où justement Adrian Newey est arrivé chez McLaren. Donc en fait, la voiture, celle-là, c'est en fait celle juste d'avant, pas été conçue par lui. À noter qu'en en nombre de courses disputées, il est quand même quatrième. Il a participé à 246 courses. Et alors, ce qui est très intéressant au niveau de ses stats, c'est que il y a un vrai déséquilibre entre la valeur brute et le pourcentage. C'est-à-dire qu'il a des statistiques qui équivalent à des champions du monde. C'est-à-dire qu'il y a des champions.
Oui, non, mais surtout sur la carrière.
Voilà. Il y a des champions du monde qui ont eu moins de victoires que lui. Par exemple. Oui. Mais bien évidemment, il y a une époque où on faisait près de 16, 17, 18 courses par saison. Et donc, quand tu prends en pourcentage, là, par contre, il est plus du tout au même niveau. Par exemple, en nombre de victoires, donc 13 victoires, il est 20e. Si on prend le pourcentage par rapport aux courses qu'il a disputées, il est 45e. Il a fait 12 pôles, 30e en absolu, 55e en pourcentage. Ouais. Les meilleurs tours, il en a fait 18, 14e, c'est pas mal. Sauf qu'en pourcentage, il est 49e en réalité. Et alors, en nombre de podiums, il en a fait 68. C'est quand même le 6e plus gros nombre de podiums. Sauf qu'en pourcentage, il est 52e.
Barrichello ne doit pas être mal non plus.
Ouais, voilà.
Ouais, donc, ah, je l'ai. Et en fait, mais en fait, il est moyen, en fait. Je veux dire, il est, voilà, dans les 45, 50e, sachant qu'il y a une centaine de vainqueurs de Grand Prix, vous voyez.
Ouais, c'est ça, mais c'est surtout, il a été mis en valeur, en fait, à une période où, entre guillemets, il y avait que lui, quoi, pour faire face à Schumacher. Enfin, faut être honnête.
Et encore.
Ouais, encore, voilà. C'est-à-dire que c'était le meilleur des autres derrière Schumacher, quand Hakkinen n'était pas en forme et voilà.
Quand Hakkinen n'était pas en forme, que Alonso n'était pas encore là, que
Raikkonen n'était pas en forme.
Que il n'était pas en forme, que Villeneuve n'était plus chez Williams. Enfin, quand même, voilà.
Ça fait beaucoup.
Bon, alors, vraiment. Et puis bon, au final, il y avait toujours Schumi. Donc voilà, c'était tout pour ce petit, je dirais résumé, on va dire, de la carrière de Coulthard en quelques chiffres.
Mais on retiendra.
Donc tu nous confirmes que statistiquement, c'est un pilote moyen.
Mais statistiquement seulement.
Statistiquement, hein.
Ah, mais faut quand même signaler le fait majeur de sa carrière, quand même. Le truc que tout le monde a retenu, surtout à TF1, il s'est marié avec Karen Mini.
Oui.
Ah, oui. C'est quand même son fait d'armes.
Comme Grosjean, quoi.
Oui, voilà. Quoique Grosjean n'en parle pas des masses, en fait. On a plutôt tendance à
ah oui, mais justement.
On a plutôt tendance à retenir que Marion Joliès est avec Grosjean. Malheureusement pour Grosjean.
Puis avec le temps, il s'est fait raboter le menton aussi un peu.
Ah ouais.
Quand il était jeune, il avait quand même c'est un carré, la tête de Coulthard.
Bah on l'appelait Playmobil.
Mais il est beau gosse maintenant.
Ah ouais, ouais.
C'est mieux qu'avant.
Ça lui va bien d'être vieux, en fait. Enfin, de
oui,
de,
voilà.
C'est l'effet George Clooney.
De, voilà, tout à fait. Il a les tempes grisonnantes et tout. Ça lui va super bien.
Et il a la gueule moins carrée.
Ouais, puis il est...
Parce que c'est vrai que quand on y pense, hein, la tête de Coulthard, c'est un peu le défi, comme tu dis, Playmobil, hein. C'est mettre un truc rond dans un truc carré. Enfin, plus exactement, un truc carré dans un truc rond.
On sait que la tête de David Coulthard n'a pas été dessinée par Adrian Newell.
Voilà. Ça devait quand même être super dur de mettre le casque. Hein.
Je veux pas dire, mais... Ouais, et pense à sa mère. Chérie, c'est un Lego. Ah non, c'est un garçon.
Voilà, c'était tout sur le menton de David Coulthard.
Au cas où vous auriez pas compris qu'on parlait du menton. Parce que ça aurait depuis tout à l'heure qu'on est carré.
Ça fait bien un petit fou rire de début de saison. Allez, on va passer à la suite. On va passer à aujourd'hui, puisqu'on a parlé d'hier, on va parler d'aujourd'hui. Alors, Dino.
Donc oui, je dis, nous allons parler de l'actualité de la F1, enfin l'actualité récente. On va pas revenir sur toute l'intersaison, puisqu'on a déjà fait ça il y a une dizaine de jours.
Mais
on va revenir sur l'actualité vraiment récente des dernières semaines, du mois de mars en fait. Et on va commencer avec le podium de l'actu, c'est-à-dire les trois plus grosses actualités que vous avez pu voir sur fanf1.com. D'ailleurs, ce sont quasiment les...
Sur tout le mois de mars.
Depuis le 8 ou le 9 mars, voilà, depuis à peu près à la fin des essais. Ce sont les trois nouvelles qui ont été le plus visitées, que vous avez le plus lues sur fanf1.com. On va partir de la troisième, on va remonter jusqu'à la première, puis on va essayer d'en débattre un petit peu avec Fab et Shinji. Et donc, en troisième position, arrive une nouvelle qui, je le sais, va faire parler, puisque nous aimons parler de lui. Nous allons parler du magnifique, de l'incroyable, du formidable, de l'extraordinaire, de l'excellentissime.
Va falloir expliquer tout ça. Hein.
Nous allons parler de Lewis Hamilton et de Red Bull, puisqu'il s'avère qu'il y aurait des tensions entre Lewis Hamilton et Red Bull.
Alors ça a commencé comment ? C'est Red Bull qui a commencé ou c'est Lewis ?
Techniquement, c'est Red Bull qui a commencé en disant que, voilà, Lewis dans la voiture. Enfin, ils ont parlé de Lewis chez Red Bull. Mais Lewis a répondu.
Oui.
Grosso modo, lui, ce qu'il a répondu, c'est que, pour lui, Red Bull, enfin, ce qu'avait dit Mercedes l'an dernier, Red Bull n'était pas un constructeur. Voilà. D'ailleurs, au passage, il a tendance à oublier que McLaren, jusque très récemment, n'était pas non plus un constructeur.
Pas un constructeur.
Donc, voilà. Et qu'il y a quand même plein de champions du monde qui ont fait leur carrière et qui ont gagné des titres sans être chez un constructeur.
Exactement. Non, c'est vrai que sur, bon, moi qui l'aime bien, Lewis, ouais, ça va. On va parler de la course après, hein.
Merde.
Alors bon. Merde. Non, mais je veux dire, bon, c'est sûr que c'est vraiment typiquement ce que j'ai dit sur FanF1 d'ailleurs. C'est typiquement l'argument idiot, bête, parce que c'est vrai que, comme tu dis, enfin, si on remonte qu'il y a pas très longtemps, Williams était champion, Benetton était champion, enfin voilà, quoi, c'est vraiment, Brown était champion, oui, puis même on peut remonter beaucoup, beaucoup plus loin, je veux dire. Donc c'est vrai que c'est un argument un peu idiot. Je pense qu'il vaut mieux que ça, Hamilton, dans ses déclarations. Je pense qu'il devrait se calmer. C'est ce que je disais, c'est que son directeur de la com devrait peut-être un peu le tenir en laisse, parce que c'est vrai que ce genre de déclaration, ça lui donne pas. Parce que les gens qui lisent ça en général sont des gens qui connaissent la F1, qui sont pas des néophytes. Et au final, je pense que ça le dessert vraiment. Ouais. C'est dommage surtout de rentrer dans le jeu de Red Bull qui aime beaucoup lancer des petites polémiques comme ça.
Mais c'est ça le pire.
Donc, à mon avis, il aurait mieux fait de se taire.
Au départ, voilà, c'est Red Bull qui lance. Il aurait pu trouver un moyen de répondre, mais d'une manière un peu rigolote. Je suis désolé, je vais défendre mon poulain, mais de répondre à la Vettel, quoi. C'est-à-dire que Vettel, il aurait sorti une réponse rigolote, décalée. Non, en fait, il a essayé de tacler, il a essayé d'être d'être méchant, d'être vexant, et enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti, quoi.
Ouais, mais totalement.
Ça a d'ailleurs été un peu chaud ce week-end, tous les mots, hein. Oh, bah, pour des canettes, on roule pas mal, etc.
Non, puis c'est un peu se priver d'une possibilité. Alors bon, d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts. Bon, bien sûr, c'est une hypothèse, hein. On voit mal Hamilton quitter McLaren. Oui. Mais qui sait, hein, et bah, c'est sûr, ça pourrait être tentant, hein.
Bah ouais, surtout avec la saison qui se prépare. Il y a des chances que ça devienne très attrayant, surtout qu'il y a quand même une place de libre. Et est-ce que Hamilton, de toute façon, ça va être Hamilton de juger, parce que est-ce qu'on se prépare une période de domination Red Bull intense, sachant qu'il y a quand même un ingénieur qui est très très bon en la personne de Newey. Alors c'est sûr que c'est quand même difficile. Je pense qu'Hamilton se pose pas la question, au moins non. En ce moment en tout cas. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, Hamilton c'est quand même un champion qui a pas eu de chance au niveau des saisons, parce qu'il est champion. Bon, il peut être champion 2007, il se rate. Il est champion 2008 et malheureusement dès 2009, la donne change complètement, redistribue les cartes. Et on passe d'une écurie McLaren qui dominait à une écurie qui n'est plus exactement sur le devant de la scène. Et ça fait trois saisons. Enfin, je compte celle-ci, mais parce que ça risque d'être comme ça. Mais ça va faire peut-être trois saisons qu'il va courir après le titre, tout en sachant qu'il pourrait déjà en avoir deux. Est-ce qu'il va pas se dire, lui, dans sa tête, pour gagner autre chose, il faudra que je parte? C'est la question que je me pose.
Et puis même, enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi un contraste par rapport à Vettel quand on voit toutes les déclarations de Vettel pendant l'hiver par rapport à Ferrari, etc. Où il a été très subtil en mettant la pression sur Red Bull en disant je veux une bonne voiture, etc. On a l'impression d'avoir un Lewis qui est aveuglément McLareniste et qui rejette en bloc parce que par principe, par valeur, parce que c'est pas un constructeur ou parce que c'est pas
entre guillemets
une écurie prestigieuse de la Formule 1 pour le moment, il rejette cette écurie en disant voilà, de toute façon j'irai pas, c'est pas un constructeur automobile. On a l'impression d'avoir au contraire un pilote qui ne fera peut-être pas forcément les meilleurs choix dans sa carrière et qui est peut-être un petit peu trop fidèle. Et on a des exemples de pilotes qui ont le potentiel, qui pourraient être de très grands champions, mais qui n'ont pas forcément fait les choix de carrière qui étaient les plus adéquats. Certains, c'est en partant dans d'autres écuries, on se rappelle Hill, on se rappelle Villeneuve. Bon, eux, ils n'avaient pas forcément toujours vraiment le choix de partir. Et il y en a certains, c'est justement en étant fidèles jusqu'au bout, à leur écurie, et ça pourrait très bien les perdre. Alors que en face, c'est vrai qu'on a un Vettel qui dit, moi, je resterai tant que j'ai une bonne voiture. Le jour où Red Bull est plus capable de m'offrir une bonne voiture, j'irai ailleurs. Ça veut dire que vraiment, on a quelqu'un qui, au sein de l'équipe, met la pression, un peu comme Alonso l'an dernier, met la pression, essaye de guider techniquement l'équipe pour les pousser dans leur retranchement. Alors que McLaren, on a vraiment l'impression que Hamilton se dit, voilà, je fais une bonne équipe, je fais confiance aux gars, mais qu'il ne leur met pas la pression. Et des fois, c'est bon de mettre la pression à une équipe.
Et je pense, oui, en effet, que si Hamilton part, j'ai pas l'impression que ce sera une question de performance. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, ce sera peut-être plus une question de personne. Je sais que, parce que cette histoire d'Hamilton qui part de McLaren, ça ressort quasiment tous les 6 mois. Hein. Et c'est vrai qu'il y a encore 2-3 ans, quand on posait la question, je me disais, c'est possible si Mercedes prend le contrôle de l'équipe. Parce que forcément, s'il prend le contrôle de l'équipe, les gens changent, la structure change, c'est plus vraiment la même équipe. Et là, il aurait une raison de partir. Là, au contraire, McLaren, c'est au contraire plutôt anglicisé.
Ouais.
Et donc, c'est les gens qui l'apprécient qui sont toujours là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et je pense qu'en plus, oui, s'il part, ça sera pas du tout pour une question de... Ça sera pas parce que McLaren aura fait une mauvaise voiture. Ou alors, faudrait vraiment que plusieurs années de suite, la voiture soit très mauvaise.
Bah oui, mais est-ce que, enfin, moi, je me souviens d'une déclaration, je me souviens plus de la déclaration exacte, mais je crois que c'était, je veux être une légende. Ouais. Est-ce qu'il va supporter? Parce que, ça va quand même être frustrant d'avoir été au top 2 saisons d'affilée. Et depuis que le règlement a été rechangé, malheureusement, d'avoir une voiture qui est certes très bonne, qui lui permet de se battre pour la victoire parfois, mais quand même qui ne lui permet pas, on l'a bien vu l'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, jusqu'en Belgique, il y a eu quelque chose, on y a cru, mais c'est vrai qu'après, la McLaren a malheureusement pas été à la hauteur des 2 autres écuries. Est-ce qu'il va supporter ça longtemps? Moi, je sais pas, je pense que oui, mais après, est-ce que dans sa tête, il va pas se dire, oui, mais, ah, tiens, j'ai quand même 26, 27, 28. Est-ce qu'au bout d'un moment, j'ai quand même pas avoir envie de partir pour une écurie qui permettra de gagner? Mais enfin, bien sûr,
dans l'idée que McLaren n'arrive pas à gagner d'ici
alors
là.
Alors qu'en plus, en face, il y a quand même des pilotes comme Vettel, comme Alonso, qui ont les dents totalement acérées et qui, on l'a vu avec Alonso, qui avait dit McLaren c'est mon rêve, pour ensuite aller dire en fait mon rêve c'est Renault, puis ensuite après dire non mais mon rêve c'est Ferrari. Et en face des mecs qui sont prêts à prendre des choix de carrière difficiles, quitte même à abandonner des équipes, etc. pour gagner. Et c'est vrai que je le souhaite pas à McLaren, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a encore 10 ans, Williams c'est une référence en Formule 1. Aujourd'hui, Williams c'est une écurie sympathique qui est en milieu de peloton. Attention, parce que McLaren ils sont en pleine restructuration, ils envisagent de faire leur propre moteur, etc. Rien ne dit que dans 10 ans McLaren sera toujours une référence de la Formule 1. Et la preuve, on le voit avec Red Bull, on l'a vu avec Brawn. Il y a des écuries qui sont capables de s'insérer et de marquer à leur tour l'histoire et de remplacer certaines autres. Donc faut avoir un regard lucide sur ce qui se passe. Et comme tu l'as dit au départ, Shinji, ne pas se fermer une porte, quoi. Faut éviter de se fermer des portes, même si on comprend le discours un peu corporate, etc. Mais éviter de se fâcher avec certaines personnes.
Alors, Dino, c'est quoi la deuxième actu?
La deuxième actu.
Qui est aussi deuxième.
La deuxième actu, il faut bien qu'on en parle, hein. Donc heureusement que vous avez beaucoup lu cet article, parce que sinon on n'en aurait sans doute pas parlé. Ce sont les HRT qui ont été présentés à Barcelone. Voilà. Après une longue période de suspense, les verra-t-on, ne les verra-t-on pas, rouleront-elles un jour? Eh ben oui, elles ont roulé, pas longtemps, mais elles ont roulé. Et elles avaient été présentées à Barcelone, où effectivement la présentation avait été... Normalement elle devait rouler, mais en fait elle a pas roulé, soi-disant, parce qu'il y avait des suspensions qui n'avaient pas passé la douane, etc. Sauf que maintenant on a appris qu'il y avait pas...
Elles ont été brûlées.
Il y avait pas que les suspensions qui manquaient. Et donc voilà, c'est sur HRT. Un petit commentaire, messieurs, sur HRT, sur leur présentation.
Comment dire? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une jolie voiture qui roule pas ou une voiture moche qui roule?
Virgin va nous répondre. sur la présentation, je me souviens plus trop, mais sur HRT en général, c'est une écurie sympathique. Mais je sais plus qui disait ça, je pense que c'est Malbranque, alors je vais citer Malbranque, attention. Voilà. Il disait c'est une écurie fait de briques et de broc. Il a pas tort dans ce qu'il dit, parce que c'est vrai qu'on sent pas quand même une grosse... je sais pas, encore il y a des petites écuries, Lotus, tu sens quand même qu'il y a un certain professionnalisme derrière ça. Ouais. Tu sens, derrière HRT, tu sens pas une... Tu sens pas ce professionnalisme, mais en même temps tu sens beaucoup d'envie, quoi. C'est quand même des gens qui ont pas l'air de lâcher. Des gens
voilà, pour être motivé, oui. Hein,
bah, de toute façon, oui, hein. Ça c'est sûr. Mais c'est pour ça, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont visiblement de toute façon pas l'expertise, mais c'est des gens qui lâchent pas trop. C'est vrai que c'est une écurie sympathique, après, faut voir. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est qu'elles sont pas si loin que ça des Virgin, sur ce qu'on a pu voir. D'accord.
Elles étaient à 109 et 110% pour des voitures qui n'ont pas voilà, roulé, du tout, quasiment pas du tout du week-end et qui ont été montées vendredi. C'est pas forcément.
En plus, apparemment, il y a eu un souci parce que le nez avant. En fait, elles ont roulé avec le nez avant de 2010. Parce que visiblement, le nez de 2011 n'a pas passé les crash tests. Ah. Ce qui explique aussi les retards, c'est qu'en plus, ils ont dû changer l'avant de la voiture. Non, c'est.
Je me suis juste gouré de jingle.
Ah ouais. C'est...
voilà.
Tu voulais dire, Sidney?
Non, dis rien.
Non, mais c'était bon.
Non, mais t'étais parti pour dire quelque chose.
Mais oui, mais le truc, c'est que ça m'a coupé, alors.
Non, mais c'est juste une fausse manip, je suis désolé.
Oh non.
C'est la première fois que tu nous fais un truc pareil. Et franchement, il nous a jamais fait ça, Dino. Lancer un jingle comme ça au milieu du truc.
Non, mais des fois ça arrive. C'est juste parce que j'étais en train de repositionner toutes mes fenêtres sur l'écran et en fait j'ai cliqué avec mon double clic portable et voilà.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Oui, Shinji, je suis désolé de t'interrompre. Cette fois-ci, c'est ta volonté.
Avant que tu commences, disons-le pour ceux qui nous écoutent, ceux qui avaient l'habitude. Oui. C'est un peu la grosse nouveauté de la saison.
C'est la seule nouveauté, en fait.
Le drive-through cette année est tunisien. Le drive-through est égyptien. Il sera peut-être libyen. Ça dépend comment ça se passe. Oui. Nous avons libéré le drive-through. Donc le drive-through pourra arriver à tout moment pendant les...
Voilà. Attention.
C'est à toi. C'est à toi.
En plus, bon, on sentira venir quand ce sera Fab ou Shinji, mais moi, je viendrai à n'importe quel moment puisque c'est moi qui lance le générique.
Ça, c'est honteux, ça.
Je voudrais mettre un drive-through à d'abord la FIA et... Il n'y a pas que la FIA, parce que bon, c'est la FIA qui a pris la décision, mais il n'y a pas que la FIA. Mais aussi à toutes les équipes qui ont critiqué d'une manière ou d'une autre HRT. J'aimerais quand même qu'on remette aussi un petit peu en contexte les choses. Si aujourd'hui on a une écurie comme HRT qui est en dehors des 107% et qui est obligée, comme tu l'as dit Shinji, de travailler, d'être faite de briques et de brocs, c'est aussi parce qu'il y a un an et demi, on leur a fait une promesse, à savoir qu'ils pourraient faire de la Formule 1 avec un petit budget, que ce sont des gens qu'on a encouragés à continuer à persévérer dans la Formule 1 l'année dernière, et que tout d'un coup, on décide, parce que ça nous gêne, parce que de toute façon, plutôt que de reconnaître nos erreurs, on préfère dire, voilà, débarrassons-nous-en, on remet en route la règle des 107% pour les éliminer. Et voilà, même si fondamentalement, je comprends qu'on ait mis les 107% parce que c'est un danger, même si les Virgin sont tout aussi dangereuses en flirtant avec les 107%, j'étais très en colère ce week-end contre toutes les critiques qu'on a pu faire envers Virgin, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une écurie qui fonctionne avec quasiment 10% du budget de Red Bull ou de Ferrari ou de McLaren, que c'est une écurie qui n'a pas de sponsors parce que les sponsors en condition de crise économique sont un petit peu vampirisés par les autres écuries, que en plus c'est une écurie qui n'est pas forcément aidée par un Bernie Ecclestone qui ne peut pas s'empêcher de dire que lui son rêve c'est d'un plateau à 10 écuries et pas plus, sous-entendant qu'il veut pas de Virgin et d'HRT. Donc c'est vraiment une écurie qui est pas aidée, et je trouve que c'est un peu simpliste, en tout cas ça a été un peu simpliste ce week-end, de dire voilà, elles sont pas au niveau, qu'elles dégagent quoi. La moindre des choses, c'est quand même quand elle est face à ce genre de situation, de montrer un peu le respect, de pas forcément parler publiquement de chicken mobile, peut-être d'en parler à la FIA en disant voilà, surtout vous êtes sévère sur les 107%, faut pas qu'elle soit en piste, mais en tout cas dans la presse, éviter de parler de chicken mobile comme ça a été le cas, et auprès des commentateurs, d'éviter de se moquer finalement d'HRT qui, moi fondamentalement, ne mérite pas qu'on se moque d'elle. C'est une écurie qui essaie de survivre et que malheureusement, on leur marche dessus un peu n'importe comment. Et là, je parle de la FIA et de la FIA, de la FOTA et de Bernie Ecclestone, qui ont été tous d'accord pour accueillir des nouvelles écuries et qui aujourd'hui leur font un beau bras d'honneur. Voilà. Donc c'était mon drive-through.
Je souscris totalement à tes propos.
Surtout que c'est terrible, hein, parce que vous imaginez quand même, comme ils sont au-delà de la 10e place, ils paient leur déplacement.
Ouais. Non, mais voilà, c'est ça en plus. Enfin, c'est un engrenage, quoi.
Ils ont payé un déplacement pour rien, quoi.
Mais à la limite, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on leur dise, bon, bah voilà, vous êtes au-delà des 107%, mais par exemple, on vous autorise à rouler une demi-heure de plus. Ou si vous voulez, on vous autorise, je sais pas, on trouve un créneau pour qu'ils puissent rouler, au moins, ou même dans la semaine, on les autorise à louer un circuit pour pouvoir rouler, leur autoriser. Au moins leur dire voilà, ok, vous n'êtes pas dans les 60%, mais on comprend pourquoi vous n'y êtes pas et on veut vous aider à vous en sortir. Alors que là non, on se contente juste de les mettre à la porte et je crains qu'on les revoie pas à HRT parce que il faut reconnaître qu'ils sont gênants, qu'ils donnent pas forcément une bonne image de la Formule 1 et que devant il y a des grosses écuries qui honnêtement n'en ont strictement rien à foutre.
Non mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment la règle des 107% a changé de perspective, comment on l'a modifiée. C'est-à-dire que la règle des 107% au départ, c'est une règle qui est faite pour sélectionner. C'est un peu la barrière de, il y a un certain seuil à franchir, parce que c'est vrai qu'à une époque, il y avait sans doute une trentaine, presque 35 voitures qui pouvaient s'engager facilement sur un Grand Prix.
En plus, justement, je me suis renseigné ce week-end. Alors de ce que j'ai compris, il y avait effectivement avant le système de pré-qualification. qui permettait, comme il y avait 30 voitures au départ, ça permettait d'éliminer les voitures les plus faibles. Donc on n'avait pas jugé utile pour les 26 voitures restantes de mettre un gap minimum à respecter. Et en fait, ça s'est arrêté, je crois, en 95. Et en 95, il y a eu un changement de, il y a eu des changements de réglementation qui ont permis à plein de nouvelles écuries d'arriver, notamment l'écurie Forti. Et en fait, on s'est rendu compte en cours de saison que toutes ces écuries étaient pas au niveau, et comme il y avait moins d'écuries, elles étaient quasiment automatiquement qualifiées pour la course. Donc, on a décidé de, comme là on l'a fait cette année, de sortir la règle des 107% pour dire voilà, ces écuries-là, elles nous gênent, plutôt que de leur permettre d'avoir une sortie honorable ou de, au contraire, de les aider. On s'est juste contenté de dire voilà, c'est pas notre faute, nous on n'y est pour rien. Si elles sont lentes, hop, 107%. Si elles sont pas bonnes, elles dégagent.
Et attention, parce qu'il faudra pas compter sur la clémence, parce que c'est possible, c'est arrivé dans certains cas que des voitures au-delà des 107% soient quand même qualifiées, mais ça a toujours, j'ai bien toujours été dans des circonstances particulières et très particulières, c'est-à-dire que une séance sous la pluie, j'ai envie de dire si c'est une séance sous la pluie tout le temps sous la pluie, c'est pas particulier.
Et donc on va passer à la première actu.
Oui.
Et là, en soi, c'est un drive-through. Puisque l'article qui vous a le plus ému, que vous avez le plus visité sur fanf1.com, c'est l'article annonçant que TF1 abandonnait les qualifications.
Bouf.
Oui, c'est vrai que maintenant vous pouvez les suivre en live texte grâce à fanf1.com. Et donc, moi je vends tous les produits. Moi.
Oh là, c'est terrible.
Moi, je suis un vrai marchand de poissons, tu vois. C'est...
Non, c'est dommage. Mais en plus, il me semblait que c'était une obligation. Enfin, le problème, c'est qu'ils doivent considérer TF1 comme le groupe TF1, et pas comme la chaîne TF1, puisque Eurosport appartient à TF1.
Mais c'est ça, c'est que quand ils ont commencé à les rediffuser, il y a 3 ans.
Oui.
Avant, ils les diffusaient pas. Ils faisaient comme le même dispositif que maintenant, à savoir que c'était repassé. Il y avait un résumé dans la nuit à 1h du matin. Et ils ont été en fait rappelés à l'ordre par Bernie Ecclestone qui leur disait c'est pas au groupe TF1 de diffuser, c'est vous qui devez diffuser les qualifications. Donc ils ont été contraints de diffuser les qualifications.
Mais ils le diffusent, hein, mais en troisième partie de soirée.
Maintenant, faut reconnaître, TF1 diffuse la Formule 1. Maintenant, ils en ont strictement rien à foutre du produit, du respect, du
sport. Ah oui, etc. Non, mais ça, c'est sûr. Enfin, en général, je préfère de toute façon tout ce qui se passe sur Eurosport en matière de F1. Parce que c'est quand même, on sent quand même qu'ils sont plus détendus, que c'est un peu plus cool. Ils nous prennent moins pour des cons quand même.
Ouais.
Que sur TF1, ils nous expliquent toutes les deux minutes les systèmes.
C'est ça
comme
qui est énervant, c'est qu'en plus, c'est les mêmes personnes.
Non mais c'est ça, voilà. Mais en fait, ils sont super. Enfin, ils sont pratiquement. Enfin, il y a rien à dire sur les séances d'essai, sur les qualifs quand c'est sur Eurosport. Mais par contre, sur TF1, ils arrêtent pas. Ils rabâchent toutes les 5 minutes les mêmes trucs. Attention, c'est pas fini. La course, c'est pas fini. Alors qu'on sait très bien que l'autre, il a gagné. Enfin voilà.
Mais c'est vrai que quand vous écoutez les essais, enfin c'est vous êtes un peu plus gentil quand même avec le trio parce que
ouais.
Il y a des vraies opinions, etc. Il y a Moncet qui parle de son blog, qui réagit. Il y a comment s'appelle Malbranche qui réagit à des Twitter, etc. Voilà, moi je sais que par exemple, l'une de nos références, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent, l'une de nos références à Shinji et à moi en matière de commentateurs de télévision, c'est les deux présentateurs qui font la NASCAR sur AB Motor.
Ah, Patangeli.
Voilà, ils sont dans la discussion, ils sont à rigolo avec un ton décalé, etc. Mais en même temps, ils sont capables d'être sérieux, de donner des informations, de donner leur opinion. Et c'est vrai que c'est ce qui manque, quoi. C'est beaucoup trop lisse, beaucoup trop corporate.
Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter sur TF1, Eurosport et
Non, il y a rien à rajouter. Ça serait trop méchant. Non, mais on peut juste comme rajouter que vous retrouverez les qualifs sur fanf1.com pour la Malaisie en direct. Il y aura un article et c'est animé par les rédacteurs. Moi, normalement, j'y serai toute la saison. Et il y aura, par exemple, Ben de F1 Chronicles. N'hésitez pas à passer, à poser vos questions. On ne prend pas forcément toutes les questions, mais on essaye d'en en prendre quelques-unes pour y répondre et puis de prendre vos réactions aussi.
Alors, non.
Bah, on peut peut-être passer à des petites citations. Je ne sais pas si vous avez oui. Des petites citations sur la F1.
Moi, il y en a une qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire. Mais qui en même temps touche un vrai problème cette année pour la F1, c'est notre cher russe, qui est cher d'ailleurs, enfin, beaucoup d'argent.
Ouais, pas si cher que ça. C'est bizarre, il est très rentable dernièrement.
Oui. Donc Vitaly Petrov qui nous explique que ajuster les boutons du volant à 300 km/h sera, j'imagine, comme répondre à 3 messages sur votre BlackBerry tout en faisant cuire des œufs et en attachant vos lacets simultanément.
Facile.
Ouais.
j'y arrive.
Ouais, tu t'en fous, t'as pas de BlackBerry.
Oui, c'est vrai, voilà.
Donc en fait, toi, tu lasses tes chaussures, tu fais cuire les œufs.
Voilà, bah c'est simple.
Ça va.
A-t-il des équipes qui ont trouvé des... Alors, apparemment, chez Mercedes, il y aurait une troisième pédale pour le volant.
Chez
pour
Ferrari
le...
aussi, apparemment, juste à côté du frein.
Chez McLaren, apparemment, ça serait plutôt sur le volant, mais ce serait pas un bouton. Ça serait au niveau des palettes. Ouais. Il y aurait une palette pour le kers et une pour l'aileron.
Et Red Bull, ils s'en foutent, ils ont pas de kers, alors que ça, ils ont pas de bouton.
Si tu veux qu'il y ait un foot du kers, il fout déjà 3 secondes à tout le monde.
En parlant de troisième pédale, je tiens à dire que le club 153 est toujours ouvert. Un petit coucou pour Bichat.
Donc voilà, c'est ma petite citation.
Fab.
Alors moi, c'est une déclaration d'Horner sur Mercedes. Il a déclaré « Ils ont de la chance de voir leur voiture abandonnée. Personne n'a été en mesure de constater à quel point elles sont lentes. » Bon, moi... Alors, elle est violente, et moi je trouve qu'elle est un peu gratuite, parce que bon, enfin, voilà, enfin, après je sais pas dans quel état d'esprit, je sais pas s'il a vraiment dit ça, ça a été rapporté comme ça, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même un peu dommage, parce que c'est vrai qu'après ils se plaignent qu'il y a toujours des gens qui répondent. Bon, ce genre de déclaration, c'est quand même pas fait non plus pour apaiser les choses, Je pense pas que Mercedes soit en ce moment en position d'attaquer grand monde, donc je trouve ça un peu... Je sais pas, il aurait pu s'en passer Horner.
C'est pas Red Bull qui avait envisagé de passer sur des moteurs Mercedes il y a quelques années? Non, je dis ça comme ça.
Oui, je pense que c'est une manière de répondre aussi à ce qu'avait dit Mercedes l'an dernier, après la victoire de Red Bull au constructeur, en disant que c'était pas un constructeur. Je pense que c'est une manière de répondre. Vous voyez, c'est comme Hamilton. Vous voyez, nous au moins on est rapide, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas très classe. C'est comme Hamilton,
c'est pas classe.
Et ça donne pas une bonne
image. Tu sais, moi, à la place de Red Bull, je mettrais Kiss My Ass sur l'aileron arrière. Parce que de toute façon, cette année.
Oh bah oui.
Oh, pour certains, mets-le aussi sur l'aileron avant, comme ça, ils verront dans le rétroviseur.
À noter pour l'anecdote que pour la première fois de son histoire, Team Lotus a eu un drapeau bleu pour elle.
Oui, il l'a dit.
Il l'a dit sur son Twitter, Tony Fernandez.
Il l'a dit sur son Twitter.
Ils ont pris un tour à une Virgin. Donc il dit, je suis toujours contre les drapeaux bleus, mais quand même, ça fait plaisir. Et sinon, Dino, as-tu une citation?
Eh ben moi j'ai une citation qu'on aurait pu tous dire. Enfin, c'est une citation à laquelle on a tous un peu râlé ce week-end. C'est une citation du patron de Pirelli qui nous dit « Si c'est mon plus grand problème, alors je suis satisfait dans l'ensemble. »
Ah oui.
Parlant bien évidemment de la couleur, parce qu'ils ont sorti toute une palette de couleurs, sauf que on n'arrive pas vraiment à les distinguer.
Le jaune, on le voit, le jaune.
Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit le jaune, on le voit. Par contre, c'est vrai que le gris, le blanc, on le voit pas très bien. Voilà, faudra voir après si vraiment le bleu, par exemple, se voit bien.
Le gris, parce que c'est vrai que quand les commentateurs se plaignaient, moi je trouvais que ils avaient besoin de lunettes. En même temps, j'avais mon bel écran HD.
Oui, voilà. Eux, ils ont des tout petits écrans.
Voilà. Parce que sur une télé normale, bon,
LD, bien sûr.
On voyait le gris. Alors, est-ce que, en fait, on le reconnaissait non pas parce que c'était gris, mais parce que c'était pas jaune?
Je pense que c'est plutôt parce que c'était pas
voilà,
jaune.
Voilà. Parce que c'était pas jaune. C'est vrai que, oui, le argent, c'est pas idéal. Le jaune, ça allait, on voyait bien sur le jaune.
Moi, surtout qu'il manque des couleurs, quoi. Ils auraient pu utiliser le vert, par exemple.
Oui, ils ont d'autres choix. Oui, ils peuvent changer.
Ou alors vert fluo, parce que vert foncé, ça aurait été dur.
Ou même, peut-être partir sur des couleurs qui se rapprochent, qu'ils ont essayé de faire avec le gris et le blanc. Peut-être partir sur un jaune et un orange pour les deux pneus les plus tendres.
Ouais.
Et partir ensuite sur du bleu et du vert, donc deux couleurs assez proches pour les plus durs. En plus, le bleu vert c'est froid, donc c'est un peu comme les gommes dures. C'est assez froid, faut vraiment que ça monte en température, etc. Alors que les tendres c'est plus comme le feu, quoi. Donc c'est plus proche du rouge, du jaune, du orange, les couleurs chaudes.
Faisons basique.
Non, mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est que tout simplement, il y a un synthé à l'écran. Pourquoi s'embêter à demander aux constructeurs de mettre une couleur sur les pneus, alors qu'il suffirait juste de demander aux écuries de déclarer auprès de la direction de course quel jeu de pneus ils viennent de mettre, pour que ça s'affiche.
Bah, ils peuvent faire les deux, hein, rien les empêche, hein.
Bon, voilà, c'est à peu près tout pour le JT du SAV, pour les news.
On va passer à la course.
Ah ouais.
Comme d'habitude, quand on parle de la course, on commence par les qualifs.
Et on aura la place du con cette année.
Ouais. On aura une place du con. Bon. Donc, 22 qualifiés, hein. On l'a dit, non, hein, non. Les pauvres à Cherté.
Un qualifié et le reste, quoi.
Oui. Donc, à noter que la barrière des 107%, hein, était de 1:31,266, qui était donc 107% du meilleur temps de Q1, qui était 1:25,296. Et donc seulement.
De tendre en plus, hein, parce que les mecs ont roulé, ont sorti des tendres, hein, des mecs comme Schumacher, etc.
Seulement 22 voitures et notre place du con. Alors c'est pas complètement de sa faute quand même. Il y a eu bouchon.
Ouais.
Il y a eu gros bouchon. Même les suivants de la FIA l'ont reconnu, hein, puisque.
Faut quand même expliquer que la place du con, c'est quelque chose qui a été instauré l'an dernier, en partant du principe que c'est le mec qui est pas qualifié en Q1, parce qu'il y a les trois autres équipes, mais bon, il y en a un qui est pas qualifié, quoi.
C'est très clair, ce que.
Oui, c'est clair.
C'est jeune mort, le compte.
C'est accrocheur.
Donc c'était le plus mauvais des anciennes écuries, quoi.
Qui non, toujours pas.
En Q1.
Je vais l'expliquer.
Vas-y, c'est lui.
Nous avons 7 éliminés, hein, puisque il y a 24 voitures, 7 éliminés en Q1. Vous le savez, il y a 3 nouvelles équipes depuis l'an dernier.
Mais
3 nouvelles équipes égale 6 voitures.
Je comprends que dalle. C'est encore pire que ce que je viens de dire.
Mais non, c'est super clair.
Donc, 6 nouvelles voitures, 7 places, ça veut forcément dire qu'en Q1, il y a toujours une vieille équipe, entre guillemets, une équipe historique, en tout cas un pilote.
C'est ce que je viens de dire!
Qui passe à la trappe.
Il le dit mieux.
Voilà. Et donc, celui qui passe à la trappe, c'est la place du con, parce que finalement, il fait pas forcément mieux que les Lotus, les Virgin, les HRT. Et parfois, il y en a même plusieurs, puisque parfois, les Lotus arrivent à passer en Q2. Eh oui. Et donc, cette semaine, eh oui, c'est beaucoup plus clair, les gens m'ont compris, moi. Cette semaine, c'est le pauvre Nick Heidfeld qui n'a pas réussi à se qualifier en Q2 parce qu'il a été bouchonné. Alors c'est qui, c'est Schumi qui l'a bouchonné ou?
Apparemment, il a été bouchonné deux fois, Schumi, et après, je me demande si c'est pas un pilote Sauber. Il y a un doute. Peut-être Perez, je crois. Enfin, je sais qu'après la qualif, il y a eu 3 réprimandes, une pour Schumi, une pour Hamilton,
Et Button, non?
Non, Button, je pense pas. Non, il y a eu Hamilton, il y a eu Schumi, et je me demande si c'est pas Perez.
Et donc ce pauvre Nick Heidfeld qui porte un poids quand même cette année, enfin voilà, il remplace Robert. Et ben patatras.
Il a tous les espoirs de la Pologne sur lui. Bon, ça va. Les Polonais vont soutenir un Allemand quand même.
Les Polonais qui parlent russe. Attention.
Les Polonais qui parlent russe.
Dixit, Jean-Louis Mousset. Hein. Parce que t'as quand même deux jeunes femmes. Sont de l'équipe Renault, avec le résultat de Petrov, donc ils montent des papiers, justement, pour un petit message de soutien pour Robert, logique. Et donc, il y a un truc marqué en polonais, donc c'est marqué en polonais, donc déjà, ça commence par S-C-Z-Y-R, enfin, un truc imprononçable. Et Jean-Louis Mousset dit...
Oui, sauf si t'es polonais.
Sauf si t'es polonais. Et Jean-Louis Mousset dit, ah, c'est du russe. Bah non.
En plus, c'est une phrase quand même qu'on a vue toute l'intersaison, hein, elle est sur toutes les voitures, etc. Donc,
laquelle, Dino?
La phrase polonaise.
Oui, tu peux nous la dire?
Non. Truc, 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 truc. Robert.
Robert.
Oui, c'est pas Robert. Donc, le pauvre Nick Heidfeld qui fait son grand retour, Non, il était déjà là en fin de saison dernière, mais... Retour dans une grosse équipe quand même.
Bah on n'attendait pas l'intersaison.
Bah non, on n'attendait pas, non.
Bah je crois que quand même déjà l'an dernier, quand il était revenu, il n'avait pas forcément fait un super premier Grand Prix. Donc voilà, c'est quand même un petit peu trop tôt pour juger. En plus, il y a quand même des circonstances.
C'est vrai que c'est dommageable parce qu'on se dit qu'il aurait peut-être justement pu faire quelque chose de très très bien. Parce que si on se dit que si Petrov il peut faire ça, à la limite, Heidfeld aurait aussi pu faire un très bon résultat.
Ah bah surtout si ça joue sur la solidité et la constance, hein, je pense que C'est pas un amateur des coups d'éclat. On n'a pas un souvenir de ah oh, tiens Heidfeld d'une passe d'armes avec quelqu'un d'autre. Non, c'est on a plutôt l'idée de quelqu'un de solide. Bon.
C'est plutôt oh Heidfeld se bat avec lui-même.
C'est ça. Heidfeld, c'est le proto Rosberg.
Ah c'est-à-dire ouais.
C'est comme Rosberg, c'est-à-dire que tu le vois pas, puis à la fin ah tiens il est cinquième.
Ah tu le fais bien.
À noter un autre qui bon, il s'est pas foiré, mais il a raté la Q1, la Q3.
Ouais.
Je commence à faire comme Dino, j'inverse. C'est notre, j'ai envie de dire notre Choumi national, mais non, c'est notre Choumi international.
Ouais.
Bon. Qui commence sa saison comme sa saison dernière a débuté, continué et commencé, c'est-à-dire qu'il s'est fait battre par son coéquipier.
Bah c'est assez étonnant parce que ils ont été pas mal lors des essais les pilotes Mercedes, même enfin surtout Schumacher, et sur le reste du week-end, enfin en tout cas sur les qualifs, parce que bon le dimanche ils ont pas fait grand chose ou ils ont pas eu le temps de faire grand chose. Je sais pas ce qui lui arrive en qualif, ça fonctionne pas. Et déjà l'an dernier des fois c'était arrivé quelques fois que il soit plutôt bon lors des essais etc, et que en qualif bah ça passe pas, il y a un truc qui fonctionne pas.
À noter aussi, BMI et Sato Rosso en Q3. Bon, dixième,
mais... Et les pilotes Sauber.
Ainsi que les pilotes Sauber. Quand même.
Enfin, Kobayashi, quoi.
Kobayashi, oui. Enfin, Perez fait 13, hein. C'est quand même pas mal. Et Alguersuari fait 12. Donc, ils sont dans un beau paquet, là, quand même. C'est quand même pas mal du tout.
Il faut aussi noter, Ferrari a quand même dû, dès la Q2, chausser les pneus tendres. En tout cas, un set de plus que les autres. D'ailleurs, Massa a même dû se qualifier avec les pneus tendres dès la Q1, parce que ils y arrivaient pas. Et c'est là qu'ils sont arrivés, je crois, en Q3, où tout le monde avait des pneus... Enfin, toutes les écuries, il leur restait deux jeux de pneus tendres, et Ferrari, il en restait qu'un. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de faire un bon tour, puisque les pneus tendres ont une durée de vie très limitée. Là où les autres avaient quand même une solution de secours au cas où ils loupaient leur tour.
Mais apparemment, il y a certains pilotes qui ont vraiment du mal à gérer ces pneus tendres. Hein. On parlait de Schumacher, mais Schumacher, je crois que c'est ça qu'il a invoqué, c'est la gestion bizarre, la réaction bizarre des pneus tendres. Massa, pendant la course, on avait tendance à penser pareil, hein, parce que je pense que son premier run, enfin, c'est assez incroyable d'ailleurs la différence entre Massa et Alonso. Enfin, je veux dire sur ce début de course.
Oui, voilà.
Mais c'est vrai qu'apparemment il y a un problème avec les pneus tendres, il y en a certains qui arrivent vraiment pas à les gérer, quoi, donc je sais pas.
Pour le coup, ils peuvent se dégrader tellement vite que, et on l'a vu bah d'ailleurs en course, les Sauber quand même,
ouais.
C'est impressionnant quand même ce qu'ils ont fait avec les pneus, c'est très très impressionnant. Et donc en pole, ça devient une habitude.
La 16e,
il est là, oui, la 16e pole de Vettel, la 21e pour Red Bull et la 176e pour Renault, à une moyenne de 228,553 km, sinon c'est... On se rend pas compte à quel point c'est rapide l'Australie. En 1:23,529, bah voilà, c'est que voilà, sans kers.
Oui, en plus, ouais.
Voilà. Je t'atomise tout le monde, je t'atomise mon coéquipier, et voilà. C'est...
Moi, j'ai bien aimé, c'est les déclarations de McLaren derrière pour essayer de se rassurer, quoi. Oui, mais en fait, vous savez, nous, on a eu, c'est quoi qu'ils ont eu comme problème? Oui, alors Button, il y a l'aileron arrière qui est resté bloqué lors du deuxième relais, et puis Hamilton
il a eu un souci de kers.
Voilà, ouais. Il a eu un petit souci de kers. Il lui a manqué du kers sur la deuxième partie de son meilleur tour. Oui, enfin, il est quand même resté quand même à 8 dixièmes, quoi. Donc, oui, il a perdu 2-3 dixièmes, donc il était à 5 dixièmes de Vettel, qui n'avait pas de kers, lui. Donc,
Et qui juge l'apport du kers entre 3 et 5 dixièmes. Donc bon.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Bon. On passe à la course.
Oui.
On passe au top 10.
Le fameux top 10.
Oui.
L'internationalement connu top 10.
Qui évolue d'ailleurs cette année.
Donc déjà, notons pour ceux peut-être qui ont voté sur FanF1 et qui ne connaissent pas le SAV, hein. Donc, le vote, en fait, des auditeurs, en fait, on additionne tous les résultats.
Oui.
Ça nous donne un classement qu'on appelle un peu, dans le jargon SAV, le classement des auditeurs. Et là où, en effet, ça change, c'est que l'an dernier, le classement des auditeurs était rajouté comme une troisième ou quatrième note.
Voilà. Donc, chacun de nous, parce que moi, je trouve pas très clair. Donc...
Oh, tais-toi. Donc, il était ajouté au vote de chacun des animateurs. Donc, le poids du vote des auditeurs comptait entre 25 et 33%, plus ou moins, suivant les émissions. Et là, on a décidé de vous donner encore plus de poids, puisque désormais, le vote des auditeurs va compter à moitié.
La femme du soleil, du coup, il a pas
ça. Ça ira. Ça ira, merci.
Non, mais c'est vrai que avant il y avait donc il y avait un top 10 pour chaque animateur plus le top 10 des auditeurs. Là, voilà. Il y aura vraiment un top 10 des animateurs dans leur ensemble et un top 10 des auditeurs pour vous, comme vous êtes plus nombreux, pour vos voix quand même valent toujours quand même quelque chose.
Et donc ça donne le classement final, le classement du SAV, le top 10, et ceux qui ont l'habitude le savent, c'est que en plus ça détermine entre guillemets le conducteur du résumé.
Oui.
Puisqu'on résume en fait la course en fonction de ce classement. L'idée du top 10 du SAV, c'est vraiment, voilà...
C'est de réparer les erreurs qui parfois n'apparaissent pas au classement final, quoi.
Et d'assassiner Hamilton.
Parfois. Si vous souhaitez assassiner un pilote que vous aimez pas, vous pouvez. Si vous souhaitez carrément bonifier un pilote que vous adorez, vous pouvez. Si vous souhaitez foutre un pilote tout en haut pour qu'il ait des points au final en classement, vous pouvez. Ça a même déjà été fait, et pas par des auditeurs d'ailleurs.
Je l'ai pas mis tout en haut, je l'ai mis deuxième.
Ouais, bien sûr.
Non, mais me discrédite pas auprès des nouveaux auditeurs. Je l'ai mis deuxième, je l'ai pas mis tout en haut.
Vous pouvez en effet réparer les erreurs, parce que c'est vrai. Parfois, il y a des pilotes qui sont très bien placés. On sait bien qu'ils méritent pas vraiment. Ils nous font de Rosberg. Puis parfois, il y a des pilotes qui ne sont pas vraiment récompensés de leurs efforts. Eh ben, vous pouvez rééquilibrer les choses. Hein. Notez d'ailleurs qu'au classement du SAV, Vettel a 2 titres.
Oui.
Il est 2 fois champion du monde du SAV. Donc, Dino, je disais, tu vas être content parce qu'il n'y a pas d'ex-aequo cette semaine.
Ah.
Et on va commencer, parce que c'est plus intéressant, par le 10e et de remonter.
On peut peut-être, je te dis, dire les pilotes qui ne sont pas dans le classement, quand même.
Oui. Alors, au niveau des animateurs, on va noter notamment, en fait, un pilote, parce que au niveau des votes, ça a été finalement relativement concentré, un assez bon consensus. C'est pour Di Resta. Ah. Que Dino, tu as mis 10e.
Ouais.
Que Fab, tu as mis 9e. Et en effet, moi, je l'ai pas mis.
Salaud.
Mais j'ai envie de dire, alors ça c'est une phrase bateau, hein. Dans mon esprit, c'est un peu le 11e. C'est un truc super bateau pour dire oui, j'ai pas mis de points, mais je t'emmerde.
Il était méritant.
Et du côté des auditeurs, parce que bon, du coup, ça fait un classement total, hein, vos votes, hein, alors, avec un nombre de points qui peut parfois être astronomique.
Pour les auditeurs, d'ailleurs, Di Resta est aussi 11e.
Ah.
Un petit peu d'écart, mais il est 11e. À noter que les auditeurs ont aussi voté pour Schumacher en 12e place, Barrichello, D'Ambrosio 14e, Sutil 15e, Rosberg 16e, Alguer Suari 17e, Trulli 18 et Heidfeld 19.
Oh putain, il finit vachement loin, Heidfeld.
Faudrait quand même commenter les résultats, parce que Barrichello dans le top 10... Enfin, dans le top 10 de certaines personnes.
Il est 13e. Hein.
Voilà, là, c'est à l'extérieur, en fait, dans le classement des auditeurs, c'est tout ce qui est au-delà de la 10e place.
Voilà, c'est tout ce qui est au-delà de la 10e place.
Non, mais je veux dire, dans le top 10 de certaines personnes, c'est vrai que des fois, ça mériterait des explications.
Oui, voilà. C'est pour ça que n'hésitez pas, hein, surtout quand vous votez pour le top 10, à mettre en dessous, à remettre votre top 10 pour partager avec les autres auditeurs, voilà, et pour discuter, pour débattre.
À noter quand même, il faut que je remercie Romain.
Oui, sérieux, je voulais y penser, tu fais bien d'y penser, Sudi.
Hein? Parce que c'est vrai que l'an dernier, le top 10 se faisait simplement sur un fichier Excel, donc quand on est que 7, 8, 10, quand déjà 10, ça commence à faire beaucoup, qu'il faut tout remplir, ça prend du temps. Hein? Et donc grâce à Romain, et grâce justement à ce petit module qui vous permet de voter, ça me simplifie extrêmement la tâche.
Voilà, parce que...
J'ai encore quelques calculs Excel, mais voilà, maintenant ça me prend 5 minutes.
Ah, parce que là, vous avez quand même été 38 à nous proposer des top 10.
On remercie à tous les nouveaux, parce que à 38, il y a sans doute beaucoup de nouveaux d'ailleurs.
Oui. Et donc, pour prolonger un petit peu, globalement, on remercie, parce que c'est vrai que nous, on arrive d'ailleurs et on a une vie avant vanf1.com. Et globalement, on remercie vraiment Romain, l'administrateur du site, et un peu toute l'équipe pour nous avoir intégrés et pour avoir vraiment développé des gros moyens pour vraiment vous proposer une intégration maximale du SAV sur le site.
On commence par le 10e.
Oui.
Les auditeurs l'ont mis 9e. Je l'ai mis 10e. Fab, tu l'as mis 4, tu l'as mis 7e.
Attends, je regarde dans mon guide où j'ai mis le pilote. C'est dans le guide, vous pouvez inscrire votre top 10, hein.
Oui. Mais toi, tu ne l'as pas mis.
Ah.
Eh non, puisque c'est Buemi de Toro Rosso.
Ah, j'ai hésité.
T'as hésité, t'as hésité avec Di Resta?
Oui, voilà.
Oui.
Je l'ai mis combien, moi?
Oui. En regardant ton guide.
Ah oui, pardon,
tu l'as mis 8e. Tu l'as mis 8e. Ah, oui.
Voilà, c'est ça, 8e.
Buemi, donc, et on peut même mettre Alger Sarif, qui confirme la bonne santé. Alors bon, Toro Rosso va pas être championne du monde. Mais, en tout cas, elles sont en milieu de plateau, ça c'est clair. Fab, tu as quelque chose à dire sur Buemi? J'ai pas demandé à Dino, parce que lui, il a rien mis, donc...
Bah, Buemi, non, enfin, moi, je sais pas, enfin, je retire pas grand-chose, je l'ai mis là, parce que c'est vrai que, bon, c'est une bonne position pour une Toro Rosso, malgré tout. Moi, enfin, il a déclaré après la course, il a dit, c'est dommage que moi et mon coéquipier nous soyons touchés dans le premier virage, c'est pas la première fois, et il va falloir qu'on en parle. Oui, ça serait pas mal, en effet. parce que c'est vrai que bon, Edgar Soiry, j'ai l'impression qu'il a quand même les dents longues.
Oh, à peine.
D'ailleurs, j'en profite pour Edgar Soiry de dire que Edgar Soiry, il a fait partie de ces pilotes qui, ce week-end, ont tenté quelque chose. Ils se sont dit, bon, bah, j'ai pas la place, mais je vais quand même y aller. Sur le deuxième virage, quand il attaque Schumacher, le mec en déclaration, il dit qu'il y avait la place. Je sais pas de quoi il y avait la place, mais c'était pas d'une voiture de F1 en tout cas. Ça, c'est sûr que c'est pas possible. Non, mais sinon Buemi, non, ouais, pas grand-chose. J'ai quand même noté Toro Rosso un peu décevante. Alors je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'elle était derrière les Sauber peut-être, mais je sais pas.
Je pense que le fait que McLaren ait dit qu'il fallait se méfier des Toro Rosso. Nous a peut-être un petit peu fait monter la mayonnaise autour de Toro Rosso, alors que finalement, c'est vrai que dans les essais...
Non mais attends, en même temps, quand on disait ça, on imaginait McLaren au milieu de plateau. Oui,
non mais voilà, non mais c'est... Non, mais, ne serait-ce que tu vois, même le fait de dire que McLaren dit ça, c'est quand même se dire, soit la situation chez McLaren est catastrophique, soit quand même la Toro Rosso est bonne. Bon, il se trouve que la Toro Rosso est bonne, largement meilleure que l'an dernier.
Ah oui.
Maintenant, elle n'est pas non plus aujourd'hui pour...
Mais voilà, c'est pas
pour
non plus...
Pour la troisième place, quoi.
Non, mais voilà, milieu de plateau, ce qui est déjà pas mal pour Toro Rosso.
Bah,
c'est clair.
Pour Toro Rosso, c'est une petite victoire quand même.
Oh oui.
C'est pas dans la continuité. Quoi.
On passe à la 9e place.
Oui.
Avec un chouchou, faut dire. C'est quelqu'un qu'on aime bien.
À part Rosberg.
J'ai dit quelqu'un qu'on aime bien.
Ah, on aime bien Rosberg, on le châtie bien, c'est tout.
Oui, mais
on le châtie même très bien. Qu'est-ce qu'on aime le châtier Rosberg. Et puis il aime ça. Hein.
C'est notre cher Kobayashi que j'ai mis 9e, que Dino tu as mis 8e. Fab, par contre, tu n'as pas cité Kobayashi et donc les auditeurs l'ont mis 8e aussi. Kobayashi, qui a fini, attends, je regarde, bon. Il a fini disqualifié, mais il était dans les points, il me semble.
Oui.
Comme Perez.
Il a fini 8e, je crois, 8e ou 9e.
8e, donc ça, c'est un peu dans le cas. Bon. Il a été moins kamikaze que parfois l'an dernier, hein. Mais surtout, voilà, ça accompagne, entre guillemets, les bons résultats de la Sauber ce week-end. Surtout ça, je pense, qui lui vaut ses points, parce qu'on n'a pas vu non plus un Kobayashi de fou.
Ouais, voilà.
Contrairement à l'an dernier où c'était le seul à se mettre en valeur chez Sauber, là il y en a un autre qui s'est mis en valeur et lui, bah, il a fait une très bonne course, très solide. Voilà, il mérite amplement sa 8e place. C'est dommage pour lui aussi que les Sauber aient été disqualifiés.
Ça appuie le fait, en tout cas, que cette Sauber est pas mal du tout. Bon, c'est pareil. Hein.
Ah ouais.
Là, on parle voilà de milieu de plateau, mais...
Elle est pas belle, mais elle est pas belle.
Bah voilà, c'est le compteur d'acheter, tu vois.
Voilà.
Elle est pas belle, mais
elle
roule.
Elle est pas belle, pas conforme, pas mal. C'est quand même bien.
Oui. Ah oui.
Donc, bon, ce qui serait bien, c'est qu'ils prennent la livrée d'acheter.
Ouais. Oui. Non, joli coup. Quelque chose à rajouter, c'est vrai qu'on... C'est pas un Kobayashi des grands jours, finalement, qu'on a eu. Avant tout.
Il a été finalement très très bon en qualif. Il a fait des tours en qualif. Voilà, il a pas amusé le terrain comme on dit quoi.
Moi, il paye. Alors pour moi, je l'ai pas mis en classement. Bon, c'est peut-être un peu sévère. C'est même très sévère. Bon, mais c'est qu'il paye.
T'aimes bien être méchante.
Ah, j'adore ça. C'est qu'il paye son, il paye son manque de résistance sur le dépassement d'Alonso. Je l'ai pas trouvé.
Faut que tu descendes Massa alors aussi.
Ah, mais j'ai descendu plus ou moins Massa, hein, mais j'ai pas, enfin, c'est vrai que je suis un peu resté sur cette impression.
Oh, il a descendu Massa.
En revoyant, j'ai pas été, bon, en revoyant, j'ai peut-être été un peu sévère, mais je sais pas, il a fait preuve autrefois de plus de résistance.
On passe directement à la huitième dans ce cas.
Bah, logique.
Huitième place. Et, tu vois, il a dit qu'il avait un peu enfoncé. C'est Felipe Massa, huitième place. Alors, moi, personnellement, je l'ai mis septième. Dino, tu l'as mis sixième. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que tu l'aies mis relativement bien, on va dire.
Oui, oui, tout à fait.
C'est très contrasté.
Ouais. Fab, tu l'as mis dixième. Donc, tu vois, il a bien enfoncé. Il l'a... Comme les auditeurs qui l'ont mis aussi dixième. Bah, ça, c'est vrai que c'est contrasté. Il avait quand même l'occasion de faire une très bonne course, surtout face à Alonso.
Mais c'est ça, c'est que, moi, j'ai adoré son début de course, vraiment.
Ah oui, totalement.
Très agressif, dans la défense.
Le fait que tu l'aies mis un peu plus que nous, c'est pour ça que ça ne m'étonne, je dis que ça ne m'étonnait pas. Faut le dire, pour ceux qui nous découvrent, c'est vrai que tu aimes beaucoup les pilotes qui défendent.
Non, donc, c'est pas que j'aime beaucoup les pilotes qui défendent, mais c'est que, voilà, je trouve que de la même manière que quand on fait l'amour ou que quand on fait un match de football contre la Luxembourg, c'est important d'envoyer des comparaisons de merde. C'est des trucs qui se font à deux, quoi, et que ça m'énerve toujours qu'on ne parle que de l'attaquant et qu'on oublie de parler aussi du défenseur. Surtout cette année, je pense qu'on va vraiment beaucoup voir de défense, parce que quand même les défenseurs derrière, ils ont la possibilité en ligne droite d'avoir, voilà, même si ça s'est pas montré cette semaine, je pense que sur des circuits à la Hermantil qui a des lignes droites de 300 000 km,
ah bah,
il y aura de la place pour écoute, passer.
Maintenant que t'en parles.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors ce drive-thru, il n'est pas tant pour Massa, parce que justement, pour le coup, il s'est très bien défendu, mais c'est sur le système. Ce fameux DRS.
Non, triple A.
Le AAA. Ah.
On défend la langue de Rabelais, nous, monsieur. Oui, parce que je dis langue de Rabelais, parce que Molière n'a pas inventé la langue française.
Ça n'est même pas la traduction littérale de DRS.
Mais oui,
on s'en fout.
Si vous parlez en français, parlez de SRT.
Oui.
Hein, soyez précis.
Non, mais SRT, ça fait Scuderia Rosso Toro, c'est pas terrible.
Ça fait aussi sous-titre. Mais c'est
oui, c'est vrai. Mais là, faut être en fin de summer, quoi.
Non, petit coup de gueule sur ce système qu'on... Alors, je vais pas dire que j'attendais des miracles, hein. Mais j'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, que ça soit en positif, voire même en négatif. Parce que c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions. Et finalement, on a eu ni du positif, ni du négatif. On a eu que dalle. Que dalle de chez que dalle. Alors c'est vrai, cette fameuse ligne droite d'Australie, elle ne fait que 850 mètres à peu près, je crois 860. C'est vrai que sur d'autres circuits, c'est peut-être plus susceptible de fonctionner.
Ouais.
Et là, c'est vrai que s'il y a un truc, ça a été la mauvaise surprise, c'est ce système. Parce que moi, vous savez que le système ne marche pas sur les deux premiers tours. Donc moi je me disais au troisième tour ça va être chouette parce que toutes les équipes, enfin toutes les voitures sont encore relativement serrées, enfin sauf Vettel mais bon ça c'est autre chose. Toutes les voitures sont relativement serrées donc je me disais au troisième tour ça va être top, on va voir ce qui va se passer. Et même au troisième tour il s'est rien passé et pendant toute la course il n'y a eu aucun véritable dépassement. Alors je crois qu'il y en a eu un ou deux.
Il y en a eu un en fin de course, je crois.
Mais oui, mais entre des équipes, ça devait être sur une Lotus ou quelque chose comme ça. Enfin, et on l'a vu sur Button et Massa. Alors que Button allait plus vite que Massa, c'était quand même plus que flagrant.
Ah bah oui.
Sans le système. Je veux dire, ça paraissait évident. quand on le voit, on se dit, bon, bah, attends, Button, il est plus rapide que Massa, si en plus, bon, il y a le Kers, les deux longs, mais comme Button aura en plus le DRS, bingo, on va avoir l'efficacité du truc. Et que dalle! Que dalle de chez que dalle. Et en plus, alors c'est là que dans Dimanche F1, d'ailleurs, justement, je crois que c'est Montagny qui a souligné le problème. C'est que le DRS offre un bonus de 15 km/h. Ok. Le problème, c'est que la F1, quand elle est derrière une autre F1, comme il n'y a plus le flux d'air, il y a perturbation du flux d'air, quand une voiture est à moins d'une seconde, elle perd 15 km. Donc en fait, on a créé un système
qui permet d'aller aussi vite qu'avant.
Voilà. Tu réfléchis bien.
Oh, c'est bien.
Si tu réfléchis bien, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que lorsque la voiture qui était derrière utilisait le DRS, au bout de la ligne droite, elle n'était pas devant, elle était au même niveau.
Tu veux dire que c'est aussi foireux que l'aileron avant amovible?
Non, l'aileron amovible, le problème, c'est qu'on n'a jamais su à quoi ça servait. Oui.
Alors que là, on sait à quoi ça sert, mais on ne sait pas si ça marche.
Ouais, l'aileron avant, en 2 ans, ça a été, c'était là. On ne nous a jamais parlé de l'efficacité de l'aileron avant. Et donc là, on voyait bien, en fin de ligne droite, en effet, les deux voitures, en règle générale, les deux voitures étaient plus ou moins au même niveau. Parce que forcément, avec le DRS, ça permettait de gagner des kilomètres heure et d'arriver au même niveau. Mais être au même niveau, ça suffit pas pour doubler.
Mais de toute façon, il y a de nombreux pilotes qui ont dit, anciens pilotes qui ont dit avant la course que finalement, c'est un système qui allait vraiment être utile pour les qualifications parce que là, ils peuvent s'en servir partout. Alors qu'en course, le système apporterait pas forcément plus d'action en course.
Parce que pour le coup, si l'explication est très bonne, mais si c'est ça, quelle que soit la longueur de la ligne droite, je veux dire, oui. Au final, t'auras toujours, si la voiture finit par être à côté, il n'y a plus le flux négatif, entre guillemets, mais les deux voitures se retrouveront toujours à même vitesse.
Oui, mais non, parce qu'en fait, quand tu seras en ligne droite, enfin, tu sais, c'est le principe de l'aspiration, quoi. Quand tu sors la ligne droite, t'as toujours une réserve de vitesse pour pouvoir passer. Et là, en plus, cette réserve de vitesse, comme tu seras en ligne droite, quand t'auras ton aileron activé, t'auras encore plus de vitesse en réserve aérodynamiquement. Donc, sur une longue ligne droite,
quand la voiture qui sera derrière et qui tentera de dépasser, oui, il y aura le surplus de vitesse, sauf que, en même temps, elle sera hors trajectoire. Et on sait que c'est très pénalisant. Hein. Donc bon,
ils vont sortir dans l'air propre, quoi. Ça va être pénalisant au départ. Après, c'est de l'air en pleine puissance, quoi. C'est-à-dire qu'ils seront exactement comme la voiture de devant, c'est-à-dire avec de l'air qui leur viendra devant. Mais eux, ils auront l'avantage d'avoir les ailerons type Monza à l'arrière, quoi. Mais c'est pour ça que je pense vraiment qu'il y a un problème sur la durée de la ligne droite. Je pense que sur des Grands Prix comme la Chine, je pense que à la fin, dans la dernière épingle, en Chine, je pense qu'on verra des dépassements au freinage qui seront.
Et d'ailleurs, sur dimanche F1, ils ont souligné un truc très con, mais ce qui est super vrai. Ils vont faire comment à Monaco?
Ils vont prier.
Ils vont choisir quelle zone à Monaco
Je pense qu'ils vont pas l'activer à Monaco.
Les courageux vont choisir le tunnel.
C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit direct, la ligne droite de départ c'est trop court, la montée après Saint-Devot c'est pas possible, en plus les rails sont trop près, c'est beaucoup trop dangereux. Et ils ont dit, le tunnel c'est même pas la peine d'y penser.
Non mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit bien que c'est une solution qui est tout aussi artificielle que les circuits d'Hermantil, quoi. Il y a que sur les circuits d'Hermantil que ça peut fonctionner, puisque c'est les seuls qui ont des longues lignes droites.
Ouais, mais c'est ça en plus, mais c'est vrai.
Quand tu regardes sur les gros circuits traditionnels de Formule 1, bon, à part quelques exceptions, mais vraiment tu te dis, bon, bah, ça n'arrête pas forcément d'être très utile sur tous les circuits, quoi.
Donc, voilà, oui, surtout qu'en plus, c'est vrai qu'en Australie, tu peux te permettre, comme faisait Massa, parce que c'est vrai que Massa, il est arrivé de nombreuses fois à l'entrée de la ligne droite quand Button était juste derrière lui, avec son Kers qui était pratiquement pas utilisé.
Ouais.
Et c'est vrai qu'un circuit comme Melbourne, tu peux très bien te passer du Kers sur la majeure partie du tour. Sur des circuits comme la Malaisie, comme la Chine, comme Abu Dhabi, comme la Corée, va te passer du Kers sur une partie du tour, je pense que l'autre a le temps de te doubler dans les lignes droites. Hein. Mmh. Donc c'est vrai que ça sera. J'en attendais pas Monts et Merveilles. Et puis c'est vrai. Enfin, faut quand même aussi, à la décharge de ceux qui ont mis ce système en place, faut quand même dire qu'il n'y a pas eu d'occasion de le tester réellement. C'est quand même la première fois, c'est quand même le premier essai grandeur nature de ce système. Bien entendu, ça a foiré parce qu'en plus, le circuit ne permet pas vraiment de juger le système parce que voilà, la ligne droite est trop courte. Mais c'est vrai que moi, j'attends de voir Malaisie-Chine. Je pense qu'après Malaisie et Chine, on pourra dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quoi.
Donc voilà, c'était mon drive-through. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Massa?
Non, à part que, mais moi Massa, c'est on a vu un Massa qui a essayé de montrer qu'il était guéri de ses maux l'an dernier, mais qui en même temps a montré le même visage que l'an dernier. C'est-à-dire j'ai vu un Massa en début de course qui a défendu comme je l'ai rarement vu défendre. Il était vraiment très beau à regarder en piste. Peut-être même parfois, peut-être un poil agressif. Peut-être un poil trop, mais je pense aussi que comme on cherche à simplifier à rendre plus facile le dépassement, nécessairement on rend aussi le défenseur plus agressif. C'est-à-dire que je pense qu'on verra des défenses de plus en plus agressives, comme ce qu'on a vu l'an dernier avec Petrov, etc. sur Hamilton. Je pense que ça on le reverra. Et je pense vraiment que Massa, il a vraiment voulu tout de suite montrer qu'il était là, puis il a vu qu'Alonso s'était raté au départ, donc il a essayé de se remettre dans le droit chemin. Maintenant, dès qu'il avait Alonso dans son rétro, il s'est fait passer parce qu'en plus, bon, il y avait un micmac avec Button et tout. Il s'est laissé passer et puis là, on n'a plus vu Massa, quoi. Alors Massa dit qu'il a eu une surchauffe des pneus arrière, je crois, ou je sais plus quoi. Enfin bref, il a plus été là, quoi.
De toute façon, ouais, enfin, on est tous d'accord. Hein, c'est son début de course qu'il.
Oui, voilà, c'est
qu'il sauve, hein, parce que sinon après. Enfin, je veux quand même souligner son très bon départ.
Hein, ouais.
Comparé à d'autres.
On y reviendra.
C'est complexe.
Oui. À la 7e place, il aurait aimé faire aussi bien que son coéquipier. Mais alors lui, il s'est pris une brique en pleine gueule hein, pendant tout le week-end. C'est quand même Mark Webber, 7e. On a l'impression qu'il roulait pas sur la même Red Bull.
Il roulait sur une Toro Rosso transformée en fait. Mais il l'a dit, hein, il l'a dit en déclaration d'après course. C'est-à-dire que je n'ai pas la même voiiture que Vettel, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça. Enfin, on peut pas avoir la même voiture. Il y a un truc qui a cloché sur ma voiture. Alors maintenant, est-ce que c'est un problème de setup? Est-ce que c'est un problème de... Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Ou alors Red Bull a enfin choisi un numéro 1 mais n'ose pas le dire.
Oui. Le T Weber, donc, Fab a mis 7e, que j'ai mis 8e, et Dino 9e, et les auditeurs l'ont mis 7e. Mm. Non, mais c'était incroyable. Ils sont censés avoir le même matériel.
Et, ouais, non, déjà, mais c'est ça, quoi.
Déjà, rien que sur la qualif, il prend près du 8 dixièmes.
Ouais, bon, je veux bien que Weber soit moins bon, ça, je pense que c'est sûr, mais enfin, quand même, il y a quand même pas 8 dixièmes entre les deux, quoi, à mon avis.
Et puis en plus ça accrédite certains chronos. Enfin, à Barcelone, la première journée de la deuxième séance, il fait le meilleur temps. Demain, le lendemain, le temps est explosé par Vettel, quoi. Donc est-ce que c'est Vettel qui a toujours été très fort en qualif, qui est encore plus fort maintenant, ou est-ce que la voiture, tout simplement, peut-être tout simplement c'est ça, la voiture correspond mieux à Vettel aujourd'hui qu'avait.
Ah, je pense que c'est aussi ça.
Je pense que c'est peut-être aussi naturel. Je pense que sans forcément que il y a un numéro 1, numéro 2, mais je pense que voilà, la voiture aujourd'hui naturellement, parce qu'il fonctionne plus pour Vettel, parce que Vettel est champion du monde, la voiture aujourd'hui elle fonctionne mieux pour Vettel que pour Weber.
Weber qu'on n'a même pas en plus vraiment vu pendant la course. Enfin. C'est pas comme si même il avait été une demi-seconde plus lent, mais on est en deuxième, quoi.
On l'a vu dans sa stratégie.
Il rate sa chance au départ, quoi. Il est à hauteur d'Hamilton. C'est vrai que Hamilton parvient à rester devant. Je pense que là aussi, il perd le podium ici, moi, je pense.
Quelque chose à rajouter sur Weber?
À part que c'est le seul vraiment qui a tenté qui a vraiment fait un pari stratégique. Bon, même si on a appris apparemment après que Massa et Ferrari s'étaient un petit peu adaptés en cours de route aussi de la stratégie. Mais bon, vraiment le choix stratégique le plus criant, c'était celui de Weber qui a chaussé les pneus durs avant tout le monde pour finir en tendre, alors que les autres étaient durs. Ce qui ne l'a pas aidé puisqu'il est resté bloqué derrière. On voit que finalement le pneu tendre.
C'est vrai que les pneus ont mieux tenu que prévu, hein. Finalement.
Ce qui fait dire d'ailleurs que si c'est quand on voit le nombre d'arrêts qu'a fait Ferrari, beaucoup de gens ont dit, et même chez Ferrari, mais aussi d'autres, que si Ferrari avait si Alonso n'avait pas foiré son départ et qu'il avait fait finalement que deux arrêts, le rythme de course de la Ferrari avait quand même l'air extrêmement bon, alors que sur le reste du week-end ils n'ont pas été très présents, ils ont été très solides en course et que peut-être ils auraient pu espérer beaucoup mieux qu'une troisième place.
Mais attends, mais les deux meilleurs tours.
C'est les Ferrari.
C'est les Ferrari. C'est dingue, parce que, on a eu l'impression qu'il
ouais, et Alonso, c'est en dur qui fait son meilleur tour.
Oui, il fait son meilleur ouais. tour en dur, alors qu'en plus, derrière lui, il a Weber qui est en tendre. Ouais. Donc, au même moment de la course, on aurait pu penser, par exemple, que Weber aurait pu faire un meilleur tour, et en fait, non.
On va passer à la sixième place. Il ne s'appelle pas Benjamin, mais c'est quand même quelqu'un de la famille Button. Je ne l'ai jamais fait cette blague l'an dernier.
Oh, je ne suis pas sûr. C'était à mettre à ton crédit.
Button, c'est rageant quand même. C'est rare. Même si bon, c'est vrai qu'il a quand même un petit peu beaucoup grillé, coupé le
virage. Totalement. Hein.
Quand même un peu, oui, un peu beaucoup. Non, mais avec les gens de TF1 qui doutent, qui disent, non, mais il y a un doute. Non, il a quand même grillé comme un malade le virage.
Mais TF1.
En même temps, il pouvait pas forcément passer autrement.
Il pouvait pas passer autrement. Puis dans les deux cas, on a quand même un pilote qui pense que parce qu'il est à l'intérieur du prochain virage et qu'il est à côté de l'autre, le dépassement est terminé. Non, le dépassement est pas terminé. Voilà. Et Button a dit ouais, il s'est jeté à la corde. Bah oui, il s'est jeté à la corde. Il savait très bien aussi où il faisait. Il savait très bien que tu avais un dégagement, que tu risquais rien. Il a tenté le coup. Il a été très agressif, Massa, sur ce coup-là.
Et puis là, en plus, où il a pas eu de bol. C'est que ça aurait pu se résoudre bien, entre guillemets, s'il avait rendu la place à Massa.
Mais Alonso est passé direct.
Mais voilà, il y a eu Alonso qui, comme par... Moi, je pense quand même qu'il y a un vrai coup stratégique de Ferrari.
Bah oui, ils auraient été malins, ils se sont dit que là, il pourra pas rendre sa place, quoi.
Il y a un joli coup d'enculé, là, quand même. ouais, passe-le, parce que forcément, il pourra plus rendre sa place.
Ils ont dit à Massa, t'inquiète, après, il te rendra ta place. Et Massa l'a cru. Tu sais, l'an dernier, là, il va te le rendre cette année. C'est cette année qu'il te le rend.
Button, donc, à ce moment-là, il est sixième. Oui, c'est ça, il est sixième. Et comme quoi, c'est vraiment rageant. Parce que il finit sixième. C'est-à-dire que il est derrière Massa. Il perd certainement beaucoup de temps parce que visiblement, il était plus vite que Massa. Hein. Ça. C'est clair, klaxonné comme un malade derrière Massa. Il perd ses 20 secondes et même plus, hein, parce que le drive-thru, on sait qu'on perd plus de 20 secondes avec la vitesse. Et il réussit quand même, au bout de la course, à revenir à sa position de départ.
Ah ouais, non, alors mais même, il a fait une très grosse
même
course.
Si, même s'il y a bon les abandons et tout ça, faut le faire. Donc il aurait pu être au niveau de Petrov, voire devant.
Bah, ils l'ont dit, hein, sans ça, il visait le podium.
Ah oui, clairement.
Mais oui, en plus, il a... Vas-y.
Pour le coup, j'ai pas eu l'impression qu'il a été exceptionnel, parce que tout ce qu'on a, on attend le coup de Button sur les pneus, hein. Parce que tout le monde se dit, ouais, Button, il va faire un truc avec les pneus, parce qu'il les manie super bien, il les abîme pas. Et là, pour le coup, j'ai pas eu l'impression qu'il était très exceptionnel sur les pneus, justement. C'est dommage, vraiment dommage pour Button. On passe à la suite.
Il est tard déjà.
Nous on s'intéresse à la première place. Hein. Vous avez remarqué qu'on n'est pas très motivé au début. Hein. Bon là on est encore au milieu du classement, mais quand on sera au premier deuxième, on aura la patate.
Ah, je pense que pour la cinquième place, vous allez être peut-être pas motivé, mais intéressé, parce que c'est un petit nouveau.
Ah.
Qui pour sa première part quand même 10 points, une cinquième place. C'est Pérez. Le Mexicain.
Marie-José. Celui...
Je ne noterai même pas celle-là.
L'homme qui a réussi à faire une course avec un seul arrêt, avec des Pirelli quand même.
Ouais.
Bravo. Là, franchement, bravo.
Et le seul pilote du week-end à avoir doublé Vettel. Ça, c'est de Froissart, et c'est vrai en plus.
À la sortie des stands.
Ouais.
Voilà.
Dans le tour d'après, c'est le seul à avoir doublé Vettel.
Qui finit, il aurait dû finir septième à 10 secondes de Button. Pas mal, dans le rythme. Et puis alors, mais c'est quoi le truc de la Sauber? Parce que, bon, c'est vrai que les Pirelli ont bien tenu. Ok. Mais là, à ce point-là.
Mais comment ils sont partis, les Sauber? Ils sont pas partis en dur ou en...
Il est parti en dur.
Voilà, il est parti en dur. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, plus de tours à entendre qu'en dur.
Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ceux qui ont commencé à entendre, ils ont quand même commencé à entendre avec le plein de carburant, alors que lui, il a commencé en dur avec le plein de carburant. Donc, il a pu finir à entendre avec une voiture finalement assez légère et peut-être que ça a pu passer. C'est un truc qui pourrait donner des idées à certains, c'est-à-dire sacrifier la qualif et compter sur ce rythme-là en course. Mmh. Bon, pas forcément à Sepang ni en Chine, hein, parce que c'est pas les mêmes températures.
Non. Alors déjà, dès la première course, on l'imagine déjà rookie de l'année. Bon, est-ce que ça peut être que ponctuel ou là, pour le coup, on a une vraie petite perle peut-être.
Faut quand même se rappeler que le premier Grand Prix de Bourdais fait cinquième ou sixième en devançant, je crois, Alonso à un moment donné. Voilà, ils ont pas forcément toujours concrétisé derrière, donc c'est prometteur, on va dire. Voilà, maintenant il faudra regarder sur les prochains Grands Prix.
On passe à la quatrième place.
Ah ouais, vas-y, passe à la quatrième place.
Ah. Voilà, vous allez être motivé.
Maintenant on connaît le classement, donc là ça va.
Vous allez être motivé, c'est quand même Fernando Alonso.
Ouais.
Que j'ai mis quatrième, que Dino a mis quatrième, que Fab a mis cinquième, et que les auditeurs ont mis cinquième.
Ah, Fernando, c'est bien l'auditeur Fab, hein.
Ouais.
Ah bah, je suis représentatif.
Ouais, il est très représentatif. Non, c'est
C'est l'inverse de Massa. Mauvais départ, mais super course derrière.
Ah ouais. Oui, non, mais ça c'est sûr.
Voilà, c'est...
Et pas bien, parce que c'est vrai que pendant les essais, même pendant les qualifs, il manquait de mojo à la Ferrari.
Mais
il y a quelque chose qui allait pas.
Mais le pire, c'est que même le départ, enfin, il le foire son départ, mais en fait, il part très bien. Il se retrouve derrière la tête de course. Le problème, c'est que il est Button qui se glisse à côté de lui, et en fait, il est enfermé à l'extérieur, et il a pas d'autre choix que de laisser passer une partie du peloton pour pouvoir passer. Et c'est vrai que
c'est le bon départ de Petrov qui a un peu chamboulé qui fait qu'ils sont arrivés à trois de front, et c'est vrai que là, Alonso s'est retrouvé à l'extérieur, complètement, presque dans l'herbe même. Et c'est vrai qu'à part ça, moi je pense qu'il aurait vraiment pu faire quelque chose.
À noter que pendant pas mal de tours même d'ailleurs, on a revu Abu Dhabi, parce que les voitures n'étaient plus les mêmes. On a vu Petrov devant Alonso.
Je crois que c'est pas vrai, on l'a pas vraiment vu devant. C'est ça aussi, parce que y en a certains qui ont dit vous êtes trop derrière, et puis dit voilà, c'est pas pareil quand même. Il était beaucoup plus rapide que l'an dernier. Là, l'an dernier, j'étais vraiment bloqué derrière, alors que là cette année, je lui courais derrière, donc c'est pas pareil. Il est arrivé quand même à la fin de course où il avait une seconde de retard, mais bon, il venait juste d'arriver dans ses échappements. Moi, je pense que à un ou deux tours, on aurait vraiment pu. Il aurait fallu 60 tours à la course pour qu'on renvoie le scénario d'Abu Dhabi.
Tu as rajouté sur Alonso ?
Moi j'étais impressionné par sa fin de course en dur, hein, quand même.
Oui.
C'était assez impressionnant.
C'est vrai que oui, il est bien remonté. Bon.
En claquant les meilleurs temps.
Ouais.
Il fait 1:29.
Sur TF1, on n'a pas eu droit à des. Oui, attention, Alonso va remonter sur Petrov.
Ils étaient emmerdés là, parce qu'ils aiment bien Renault.
Ils aiment bien Alonso.
Ils étaient un peu emmerdés là.
Là, ils l'ont pas dit, finalement. On passe au podium.
Putain, comment on est passé vite sur Alonso, ça m'énerve.
Bah oui, mais.
Vivement qu'ils se remettent en forme, les Ferrari, quand même, parce que. Mais en tout cas,
si je peux ajouter un truc qui peut te faire plaisir.
Ah.
C'est qu'il a pas été trop ralenti par Kobayashi et Massa, hein, quand même.
Oui.
Non.
Voilà. C'était juste pour dire ça.
Sur la troisième marche du podium.
Là, il y a un petit suspense.
Vous, d'après vous, c'est qui sur le troisième?
Je pense que c'est Lewis.
Ouais, moi aussi.
Eh bien, en effet, c'est Lewis Hamilton.
Et c'est dégueulasse.
Que j'ai mis deuxième, que toi as mis deuxième, que Fab, tu as mis troisième.
Ah, Fab, qu'est-ce qui t'arrive?
Comme les auditeurs. Fab, il retrouve vraiment les auditeurs ce soir.
Non, mais enfin, bon, alors, c'est pas... C'est la cour... Enfin... J'ai même hésité à le mettre deuxième devant Vettel, mais je me suis dit que ce serait trop injuste pour Vettel quand même.
D'accord.
Oui. Non, mais attendez. Faut que je vous explique. On est arrivé aux essais. On s'est dit la McLaren va être à chier. On a vu tout de suite qu'elle serait pas à chier du tout.
Non.
Donc à partir de là, qu'il fasse une bonne qualif, qu'il fasse une très bonne qualif, qu'il fasse une très bonne course, ça devient quand même moins étonnant. Donc, mais après, moi, ce que j'ai mis, c'est qu'il a pris son départ a été décisif parce qu'il a résisté sur Weber. Donc, là, c'est à ce moment-là qu'il s'ouvre les portes du podium, clairement. Après, il bénéficie d'une très bonne voiture, mine de rien, qui est quand même relativement loin de la Red Bull. Mais il a fait une course très propre, même plutôt bien, surtout compte tenu du petit incident avec le fond plat. Moi, s'il n'y avait pas eu Petrov, il aurait sans doute été deuxième. Mais là, c'est vrai que je salue sa course, ça change rien, c'est un très très bon pilote. Mais oui, troisième là, c'est pour ça. Voilà.
C'est vrai que Hamilton et McLaren, c'est Orphée qui revient des enfers, parce que faut le dire. Les temps et ce qu'on a pu dire pour McLaren, c'était pas un coup pour faire genre « Oh non, on marche pas !» Non, non.
Ah ouais, non, mais...
Ça, c'est la voiture était lente, c'était catastrophique. En fait, parfois c'est catastrophique, mais on essaie de le cacher pendant un petit moment.
Ils étaient pas là, forcément lents. Il faut vraiment reconnaître que lors des essais, c'était pas aussi grave qu'en 2009, où vraiment, là, ils étaient en fond de grille. Là, ils étaient vraiment en milieu de grille, mais c'était pas enthousiasmant, quoi.
Mais là, disons que c'était tellement pas terrible qu'ils ont même pas pu le cacher. Et ils ont fait bon. Alors, c'est un choix qui peut paraître simple, puisque finalement ils ont enlevé les trucs les plus, notamment tout le système d'échappement qui était innovant, pour finalement mettre des solutions plus éprouvées, faire simple finalement pour aller vite.
C'est aussi par rapport tout le discours qu'ils ont tenu sur l'intersaison, qu'il fallait prendre des risques, etc. par rapport à Ferrari. C'est aussi un aveu d'échec, quoi. C'est un constat d'échec de se dire, finalement, on est aussi obligé de revenir à des solutions plus conservatrices parce que ce qu'on a fait, ça fonctionne pas, quoi.
Mais c'est vrai que son problème de fond plat finalement n'a pas été trop pénalisant.
Non, il a juste eu à le gérer.
Oui, voilà.
Bah lui, il a dit qu'il avait même pas senti. Après, c'est ce qu'il dit.
Non, c'est quand même impressionnant.
Ouais, puis on parlait en début d'émission des écuries des grandes écuries qui peuvent tout d'un coup, comme Williams, s'affaisser, quoi. Mais faut voir quand même que la capacité de réaction de McLaren a quand même été, énorme sur le coup, parce que certes c'est une solution simple, mais faut quand même se dire qu'on est à 10 jours du début de la saison et qu'on prend quand même le risque et le pari, plus ou moins, je pense quand même que c'est un pari calculé, de revenir en arrière, c'est-à-dire de vraiment, comme tu dis, de mettre d'effacer tout ce qui s'est passé durant l'intersaison à ce niveau-là pour mettre ça, et ça a fonctionné. C'est quand même, je sais pas si beaucoup d'équipes, je me rappelle Williams, c'est au début quand je commençais à suivre Williams, quand ils sont passés de 96 à 97, de 97 à 98, pardon, il y a eu une déperdition tout de suite. Et Williams, à ce moment-là, n'a pas su réagir. Et c'est le début de l'enfer, de l'enfer entre guillemets, c'est le début de la descente pour Williams. Je suis pas sûr que McLaren, à l'heure actuelle, soit dans l'optique de vraiment laisser ce genre de choses arriver. Je pense qu'ils ont vraiment les capacités pour se remettre tout de suite d'aplomb, la preuve, je veux dire. Et c'est pour ça que quand on parlait de ça au début, je pense pas que McLaren tomberait dans ces travers-là. Après, le temps nous le dira, mais c'est vrai que c'est quand même une équipe qui a des ambitions, qui a une capacité de réaction forte. Bon, ça, je doute qu'ils soient vraiment largués un jour, quoi.
Heureusement qu'ils savent réagir, parce qu'il y a un vrai problème de conception des monoplaces et un vrai problème parfois de prise de risque. Je l'ai dit dans le guide du SAV, moi je pense vraiment que le conservatisme parfois a du bon. C'est peut-être pas super efficace, on le voit avec Ferrari, mais en tout cas, Ferrari ils ont pas de retard, ils ont de la fiabilité, etc. Pour le moment, McLaren, tout ça reste à prouver.
Mais c'est vrai que ça alterne beaucoup d'une année à l'autre, hein, McLaren. Voilà, c'est tout sur Hamilton et McLaren.
Mais non, j'ai rien dit moi sur Hamilton.
Ah oui, c'est vrai.
On s'en fout, ce que tu vas dire.
Non, mais je voulais juste dire qu'Hamilton... Non, mais honnêtement, moi, je l'ai mis deuxième parce que je trouve qu'il a fait une course extraordinaire.
Oui.
J'ai rarement l'occasion de le dire, mais il a été splendide.
Deuxième parce que...
Il a vraiment été formidable dans sa gestion d'un incident qui, franchement, est une énorme tuile. Sérieusement, Shinji, c'est très rare quand je défends Hamilton, mais je dois quand même reconnaître que là, c'est tout simplement magnifique ce qu'il a fait. Réussir à
Race
maintenir...
Race road.
Tu dis pas la vérité de ton pari que tu as perdu.
Non, je dois être honnête, c'est vrai que j'ai fait les traductions d'Hamilton ce week-end sur fanfr.com et bon, il utilise beaucoup de superlatifs, c'est génial, c'est mais un peu plus que d'autres, sérieusement, dans les versions anglaises. Regardez bien, c'est un peu plus que d'autres. Voilà, donc comme en plus je suis pas très fan d'Hamilton, ça m'aide pas forcément à l'aimer. Mais non, honnêtement, il a vraiment fait une. Moi, je trouve qu'il a fait, une très bonne course. Il a mis la pression à Vettel au départ. Après, bon, c'est le seul fautif hein, sur la casse de son amorce de fond plat. C'est le seul fautif.
Ah bah oui.
Mais avec ce problème-là, alors qu'on pouvait s'inquiéter, se dire peut-être que ça va le forcer à l'abandon, etc. Parce que ça bougeait pas mal. Bah non, en fait, il a réussi à ménager. Il a assuré la deuxième place. Il a assuré les gros points. Tout en étant bon avec les pneus, honnêtement, on s'attendait pas forcément à voir de sa part. Donc, moi, je trouve qu'on a un Hamilton qui, sportivement, et sur sa lancée de 2010, c'est-à-dire un Hamilton qui a mûri, qui est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux. Et j'espère que pour lui, qu'il va rester dans ce domaine-là et un petit peu gommer les aspects extérieurs qui sont parfois un petit peu horripilants.
Écoute, il se sent plus depuis qu'il fait des pubs pour Reebok.
Oui.
Ce qui est très drôle, la pub Reebok, c'est que ça fait déjà quelques semaines hein, qu'elle est diffusée. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était Thierry Henry, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est vrai. Au début, tu dis, ah, mais tiens, mais je le connais. Ah, mais oui, c'est Lewis Hamilton.
Je l'avais pas reconnu sans son casque.
Ce qui est drôle, c'est que lors des premières diffusions, il n'y avait pas son nom. Et ça diffusait à n'importe quelle heure de la journée, hein, on est d'accord. Donc n'importe qui peut tomber dessus. Ils passent la pub pendant la course, vous allez me dire, logique, et là, ils mettent son nom. C'est-à-dire qu'ils mettent son nom dans une pub au beau milieu de la course, donc a priori, les gens qui regardent la course savent qui il est. Enfin, en tout cas, ils savent qui il est au bout de 20 secondes, après avoir pensé que c'est Thierry Henry.
Mm-hmm.
Mais non, bah, ils ont mis son nom.
Mm-hmm.
Oui.
Tu comprends? Alors que, non, mais parce que si tu veux, quand ils le passaient au début, n'importe quand, donc des gens qui ne connaissent pas la F1, ils savent pas forcément qui c'est.
Mm-hmm.
D'accord.
C'est frappé du coin du bon sens.
Voilà.
C'est quoi cette expression ratée, là?
C'est une femme qui s'intéresse. Bon,
je suis entouré d'incompétents.
Quand ils le diffusent à des moments où n'importe qui peut le voir, avec des gens qui ne le connaissent pas, ils mettent pas son nom,
mm-hmm.
Quand ils le diffusent au milieu de la course, où a priori, les gens qui le voient le connaissent, mm-hmm. Ils mettent son nom.
Non, mais cette pub, c'est quand même quelque chose.
Ce qui est étonnant, tu vois, c'est que je pense que dans le Grand Prix, par exemple, des fois, ils te mettent H-A-M. Alors que ils sont cons parce que on ne sait que c'est Hamilton. Puisqu'on est des fans
mais
de
non,
Formule 1.
Mais compare pas. Mais compare pas.
Mais non, mais.
Même je vais aller plus loin. Pourquoi on met nos noms sur les boîtes aux lettres?
C'est vrai.
On sait que c'est chez nous. On est quand même un peu cons, nous aussi.
Excuse-nous, Shinji. Vas-y. Alors, Shinji, qui est deuxième?
Qui est deuxième? Donc, lui, il ne fait pas des pubs pour Reebok. Donc, au moins, on est tranquille.
Ouh.
En tout cas, peut-être en Russie, mais on ne sait pas.
Ah.
C'est Vitaly.
Putain, ça m'a fait peur, Fab. J'ai cru qu'on n'allait pas avoir Vettel premier.
Ouais.
Petrov, que j'ai mis troisième. Que Dino a mis troisième, que les auditeurs ont mis deuxième, et en effet, Fab l'a mis premier.
Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Petrov, si je l'ai mis premier, c'est surtout parce que c'est quand même assez inattendu, hein, son résultat. Après, bon, sur sa course, c'est pas non plus une course spectaculaire, mais enfin, tu peux dire ça des trois premiers. Moi, c'est surtout l'effet de surprise hein, qui me fait le mettre premier. Après, bon, je note quand même qu'il a fait un super départ parce qu'il double quand même Alonso Hamilton au départ. Ça aussi, c'est pareil. Hein, il y a beaucoup de courses de pilotes, c'est sur le départ que ça s'est joué. Hein.
C'est un peu une course à la Rosberg, en fait.
Ouais.
On l'a vu au départ et après, on l'a plus vraiment vu.
C'est vrai.
C'est ça.
Et on l'a vu,
il était troisième.
Juste parce qu'il y avait finalement Alonso qui remontait, mais même quand Alonso remontait, on voyait pas vraiment Petrov, on voyait juste Alonso.
Non mais c'est ça, c'est une course solide quoi.
Vous avez remarqué le détail, on voit que c'est le type qui fait le podium pour sa première fois. Il a mal garé sa voiture à la fin de la course.
Bon, là c'était quand même très très dur. Hein. Je sais pas ce qu'il aura pris là, mais quand même...
C'était assez resserré, alors je sais pas après si... Donc Petrov, non c'est quand même génial. C'est bon, premier podium pour un Russe forcément.
Oui, il y a eu la question sur Europe 1. Enfin, sur Europe 1, sur TF1. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres Russes qui ont fait des podiums?
Ah oui, oui.
Bah non, c'est le premier Russe de la F1.
Premier Russe.
Ou alors, on a manqué un truc l'année dernière, mais bon. Oui, Yuri Gasparov, on faisait vraiment une grosse connerie, mais bon.
Non, mais, ouais, course magnifique, pour le coup, on savait pas trop, enfin. Parce que, tu sais, lors des essais, ça avait bien commencé. Pour Lotus Renault. Et puis, sur la suite, alors que tu te souviens, justement, au tout début, on se disait, ouais, est-ce que ça va être, la voiture qui va tout déchirer avec son système d'échappement et tout. Et puis, ils étaient un petit peu rentrés dans le rang, hein, on va dire. Et là, très impressionnant, troisième place, il a carrément défoncé son coéquipier, hein, ça c'est clair.
Il a défoncé. Ouais. On peut pas dire défoncé, c'est pas les mêmes circonstances de course, c'est pas la même course, ils ont pas été du tout dans la même course. Puis il faut quand même reconnaître que Petrov a pas du tout été inquiété de la course. Bon, c'est vrai que moi j'ai défendu Petrov l'an dernier en disant que voilà, je pense que Petrov, on est un peu sévère envers lui. Je pense que ça n'a pas été un mauvais débutant. Et c'est vrai que ce qui est vraiment très enthousiasmant, c'est qu'il a fait une course sans erreur. Il a fait un week-end sans erreur globalement. Oui. Il fait une bonne qualif, une bonne course. Puis c'est un peu la revanche quand même du mec. Il y en a qui l'ont dit sur fanf1.com quoi. C'est un peu comme le mec qu'on voyait déjà être remplacé par Heidfeld alors qu'il y avait Kubica qui allait revenir quoi. Alors que là il le montre que non quoi, même si on sait pas ce que vaut vraiment encore Heidfeld, lui en tout cas il a déjà un podium et c'est déjà une marque pour Heidfeld, c'est quelque chose que Heidfeld va devoir faire.
On passe au leader, on passe au premier, on passe à
généralement le leader est premier.
Oui, non mais j'accumule les superlatifs, c'est un effet de style, you know.
Tu vais essayer d'entretenir le suspense.
Hein, je passe à l'homme qui actuellement fait plus peur que la centrale de Fukushima et Kadhafi.
Ah, bravo, Shinji, t'as essayé d'arrêter de ressortir.
J'ai réussi à la ressortir.
Oh là là.
Vettel que j'ai mis premier, que Dino a mis premier, que Fab forcément a mis deuxième, hein, puisque il a mis Petrov premier, et que les auditeurs ont mis premier. Que dire? J'ai envie de dire, il a fait une course à la Rosberg, mais à la Vettel.
Ah bah oui, voilà.
C'est-à-dire qu'on l'a pas vu, lui non plus. Voilà. En gros, c'est après le premier virage, il y a déjà, quoi, les 15 mètres, 20 mètres.
Mais lui, c'est ce qu'il a dit, hein, en conférence de presse, il a dit, j'ai fait l'effort dans le premier tour, et puis après, j'ai contrôlé, quoi. Et c'est vrai que quand tu vois quand même le mec qui te dit ça, et là vraiment tu veux le croire quoi, tu le crois quoi, comme tu te dis ouais derrière j'ai contrôlé quoi, j'ai maintenu l'écart etc.
Combien il avait au bout du premier tour?
C'était lui. Il avait presque 3 secondes. Il avait 2 secondes et quelques.
Un tour.
Et bon écoutez, à un moment donné j'ai vu Hamilton se rapprocher, j'ai passé la deuxième quand même, je me suis dit faut pas exagérer. Bon déjà que j'ai pas le Kers, alors en plus il faut que je passe.
Ils ont révélé à la fin. Ah oui, non, mais il n'avait pas le Kers.
Bah, dès le départ, on s'en est douté. Hein. Mais en plus, ils ont fait les malins parce que Horner a dit oui, mais je veux pas. Après les qualifs, quand on lui a demandé pourquoi ils n'avaient pas utilisé le Kers, il a dit oui, vous savez, on a une raison, mais je veux pas vous dire, je veux pas vous gâcher la surprise. Et là, moi, déjà, ça me sort, je me suis dit attends, la surprise, qu'est-ce qui va nous surprendre?
Il y a eu la rumeur, tu sais, du mini-Kers.
Du mini-Kers, je fais la vraie... mais tu sais, en décollant, je fais la grosse surprise, c'est qu'ils aient bluffé tout le monde en disant qu'ils auraient un Kers, puis en fait, ils auront que dalle, quoi.
Et puis, c'est ça, la surprise.
J'ai été un peu comme tout le monde, tout le week-end, j'ai vu les synthés où il y avait la petite pile à côté, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça y est, ils ont le Kers, c'est pas possible.
Ah oui, c'est ça qui m'a étonné. S'ils n'avaient pas le Kers, normalement, on aurait dû le voir au synthé.
Ben non. Puisque eux le disent, eux disent qu'ils comptent.
Pas eux, voilà. Non mais justement, c'est ce que je, dans mon esprit, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est que s'il n'y avait pas le Kers, rien ne s'affichait justement. Voilà. Tout était vide. En fait, non. Ils vont peut-être revoir leur capteur.
Bon, par contre, là ils l'ont dit, pour la Malaisie, ils vont le prendre le Kers.
Ah bah oui.
C'est là que les deux lignes droites, ils le disent, même si on a une petite avance, il le faudra le Kers.
Oui, bah.
En tout cas, au moins, ils ont dit au moins pour le départ.
Ouais. Histoire de mettre 5 secondes au bout d'un tour au lieu de 3. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Enfin voilà, c'est
un mur.
C'est Ferrari,
oh,
je crois.
Oh non, s'il te plaît.
Si, je t'assure.
Je crois que c'est Ferrari qui a dit ils sont sur une autre planète.
C'est Alonso qui a dit Vettel était sur une autre planète, quoi.
Il sème le désespoir, là, en ce moment, chez tous ses concurrents. Bah,
je sais que pendant les qualifs, beaucoup de gens ont dit, est-ce que vous pensez que la saison est morte, etc. C'est un peu trop tôt. Voilà, maintenant, c'est vrai que c'est quand même un circuit qui leur a pas souvent réussi, où ils ont été parfois rapides, mais ils ont pas su concrétiser. Et là, vraiment, il a atomisé tout le monde en qualif. En course, il a conduit avec un... C'est peut-être un peu exagéré, mais un peu à la Raikkonen, quoi. Il a conduit avec le coup
comme
de...
Comme il disait, justement, quand il est sorti en fin de la course, il avait pas l'air fatigué, rien, quoi. Donc,
c'est
presque
un...
Ça, c'est un coup à la portière.
Il y a un tel contraste entre cette voiture et les autres, quoi.
Ouais, non, mais enfin, moi, je pense qu'on va avoir la saison qu'on aurait dû avoir l'année dernière, la Red Bull... Parce que l'année dernière, qu'est-ce qui se passe?
On aurait même déjà dû avoir il y a 2 ans, hein.
Voilà. Bah c'est ça, mais sur les 4 premiers Grands Prix, qu'est-ce qui se passe l'année dernière? Il y a des défauts de fiabilité, et justement dans ce laps de temps, Weber en profite pour revenir au niveau, temporairement, de Vettel. Et là, au moment où la voiture est plus fiable, bah c'est Vettel par contre qui s'effondre psychologiquement. Et finalement, il reprend le dessus qu'à la fin, et comme Dino l'avait dit dans une de ses émissions, en se disant, ça y est, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Et là, cette année, il a sans doute, il a la confiance à plein régime, évidemment, mais en plus, il a la voiture fiable. Donc moi je vois pas vraiment, mais j'en suis persuadé, mais comment quelqu'un va pouvoir l'arrêter, c'est impossible sur cette saison à mon avis.
Faut pas forcément tirer des conclusions du premier Grand Prix. Maintenant c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse tendance, et que de ce qu'on a vu l'année dernière, de ce qu'on aurait dû voir il y a 2 ans, je me dis moi la saison 2011 c'est vraiment ce qu'on aurait dû voir en 2009 sans le double diffuseur. La Red Bull, la RB5, c'est exactement le même concept, il y a pas de double diffuseur. La RB7 c'est la RB5. C'est l'évolution de la RB5, pas de la RB6. Voilà, toutes les idées d'évolution qu'avait dans sa tête Newey pour la RB5, avant qu'il y ait le double diffuseur, etc., c'est la RB7. Et comme la base de la RB5 était vraiment excellente, là, on a encore une voiture qui domine, quoi. Et il y a un plein de confiance dans cette équipe et chez ce pilote qui est...
Oh non, mais ça c'est sûr que, enfin c'est le type de pilote. Tu te dis, s'il part devant, de toute façon, on le reverra plus, quoi. C'est assez rare les pilotes comme ça. Là en plus il a la voiture, donc voilà. Va falloir bosser
grosse,
derrière.
Grosse
quoi.
Saison. Ouais. Grosse saison, et c'est les télés qui vont faire la gueule.
Ouais. Et puis en plus il y a aussi ce contrat, c'est que ce qu'on a cru penser être le plus grand rival de Red Bull pendant l'intersaison, c'était Ferrari. Ils ont fait un week-end de mi-figue mi-raisin. Voilà, on se dit si en Malaisie Ferrari relève pas la tête et si McLaren ne confirme pas, la saison elle est morte, quoi, parce que voilà, s'il y a pas de changement, si vraiment les tendances aperçues à Melbourne se confirment en Malaisie et en Chine, on se dit ça va être très dur, quoi, ça va être très très dur.
Ah bah oui, ça, de toute façon les points pris entre guillemets outre-mer, ça s'est confirmé plein de fois ces dernières années. Ouais, c'est maintenant, parce que sinon après ce sera trop tard. Donc au niveau des classements du SAV, donc bon, le classement pilote c'est le même que la course. Quant au classement constructeur, eh bien Red Bull a 31 points devant McLaren 23 et donc Lotus Renault 18 points. Notez que Ferrari 4e avec 16 points, Sauber 12 et Toro Rosso 1 point. Parle de l'autre classement, celui qui n'est pas le classement du SAV.
Donc qui est un peu moins crédible.
Voilà, qui est un peu moins crédible, comme chacun sait. Donc bon, le classement pilote c'est celui de la course. Et là du côté constructeur, on a Red Bull avec 35 points devant McLaren 26, Ferrari 18, Lotus Renault 15, Toro Rosso 4 et donc Force India 3. Forcément, ouais. Suite au déclassement. On passe au fait marquant.
Bien entendu.
Alors.
Mais, Shinji, qu'est-ce que l'effet marquant?
Le fait marquant, c'est, j'ai envie de dire, comme le nom l'indique, c'est le fait marquant.
Tu n'es pas très clair, Shinji, laisse, je vais expliquer. Vas-y. Non, vas-y, Shinji, vas-y.
Tu es bien, tout simplement, nous allons chacun choisir ce que nous avons jugé être le moment de la course. Le fait marquant, donc ça peut ne pas forcément être un moment, mais une constatation, quelque chose rattaché à la course. qu'on va vous soumettre à sondage. Hein? Et donc, en fait, c'est vous qui allez voter pour quel a été le fait marquant, donc cette fois-ci, le fait marquant d'Australie. Alors, qui va choisir en premier le fait marquant de la course?
Bah, c'est moi.
Moi, je propose qu'on fasse ça dans l'ordre alphabétique. Hein.
Ah non, 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 non. J'ai bien réécouté le SAV d'Abu Dhabi, et ma proposition avait fait un four, alors c'est à moi.
Et c'était qui est arrivé deuxième?
Je crois que c'est Shinji.
Yes, j'aurai le dernier choix.
Pas du temps d'avoir le dernier choix. Alors, Fab, quel est ton fait marquant?
L'envol de Vettel grâce à Red Bull.
Shinji?
Je vais prendre le splendide résultat de Petrov.
Et moi, je vais prendre le début. Je vais être honnête, je vais pas prendre un truc genre.
le premier point de Diresta.
J'hésite entre deux en fait maintenant que j'y pense. L'inefficacité du RDS.
Du DRS.
Du DRS.
Le RDS, c'est dans la radio.
Ouais.
C'est bon, tu as tout noté?
Oui, c'est bon. Donc, on peut dire, hein, pour voter, tout simplement, c'est, normalement, vous avez peut-être même déjà voté, ce sera dans l'article, en dessous de l'émission. Donc voilà. Donc si vous entendez l'émission d'une autre manière, bah, vous allez sur fanf1.com, dans la barre latérale, vous avez le petit module SAV de la F1, vous prenez l'article SAV, Australie, et vous verrez, il y a le sondage sur la page. Voilà. Voilà. Faut un peu plus fouiller sur Fan F1 que sur SAV de la F1, mais c'est normal.
Concernant les drive-thru, Fab, tu t'en as pas vraiment donné pendant le...
Non, mais...
Est-ce que t'en as pas? T'en as ou t'en
non,
as pas?
Non, j'en ai pas.
Bon, tant pis, d'accord. Juste pour passer à la suite. Sur ce...
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge. Mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Il y a ici quelqu'un qui veut faire un deuxième drive-thru.
Shinji, faut que tu récupères le contrôle sur ce drive-thru.
C'est une arme redoutable. Je suis désolé, je veux juste donner un drive-thru à Fab parce qu'il ne fait pas honneur au drive-thru en refusant de faire un drive-thru. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dirais.
J'ai pas
c'est
vraiment un drive-thru. Je ne jouerai pas la carte du populisme, monsieur Dino.
Il y en a, monsieur, qui ont essayé d'avoir des solutions, hein, qui ont regardé les podiums à Monaco, hein. Il y en a qui ont critiqué je sais plus quoi Silverstone, hein. Donc tu te démerdes, tu nous trouves un truc.
Bah vous voulez que je vous trouve quelque chose?
Oui.
Eh ben
oui.
Je vais vous trouver quelque chose.
Voilà.
Pense aux casquettes de Pirelli.
Alors, les casquettes de Pirelli étaient pas si mal que ça. J'ai trouvé un retour aux années 90 plutôt salvateur. Mais en ce qui concerne le drive-thru, non, moi je vais rester sur un peu les mecs, la contenter des dépassements incroyables. Enfin, moi c'est Alguersuari et Barrichello, surtout Barrichello quand même, qui se défend quand même en disant il a freiné très tôt au milieu de la piste. Bon, tu regardes, en fait le mec il vient le harponner parce qu'il se lance de loin, mais dans une manœuvre désespérée. Donc voilà, c'est surtout ça, parce que sur le AAA, j'en attendais rien de particulier, donc je suis pas déçu, mais oui, là, les manœuvres désespérées, allez, voilà. Il a quand même pas de bol, Rosberg, hein.
Non.
Rosberg, c'est terrible, oui.
Même quand il se crache, on le voit pas.
Là. Mais te rappelles pas, en Corée?
Oui,
en Corée, on l'avait vu sur le scooter.
Je sais qu'est-ce qu'il fait là, Rosberg, c'est la voiture.
Tiens.
Ralph Schumacher serait donc chez Stiles. Parce que Ralph a un casque jaune en plus.
Oui. Oh là là.
Ah voilà, c'est bien. T'avais un drive-thru, c'est bien.
Ouais.
Bon, j'ai bien aimé celui sur Pirelli. Ce qui m'embête, tu vois, c'est que t'en as mis deux.
Bah oui, mais bon. J'avais pas pensé aux casquettes, moi.
Allez, on va passer à la suite. J'attends, histoire qu'il lance rien. Bon, c'est bon?
Oui, c'est bon.
On va passer au concours. Oh,
Pourquoi tu me demandes avant? Du coup, ça m'a donné l'idée, Shinji. Shinji?
Oui.
Je connais la Shinji, là, il range son frein. Non, vas-y, Shinji. Bon, promis, j'y touche plus.
Promis.
Non, mais me donne pas envie, s'il te plaît.
Et maintenant, c'est le grand retour de notre concours. Le concours Top Opposition.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Alors, le concours Top Opposition, qu'est-ce que c'est donc? Eh ben, c'est un concours.
Ah là, je vais t'expliquer.
Où il ne s'agit pas de deviner une position. C'est logique. Alors, soyons tout de suite honnêtes, c'est pas un concours officiel, c'est juste un concours entre potes auquel on vous invite à participer. Voilà, donc le but du jeu, c'est un peu compliqué. Le but du jeu, c'est que chaque semaine, on va vous poser une question à laquelle vous répondez en nous posant.
Non.
Non, mais là, il est clair pour l'instant.
Non, mais en fait, chaque semaine, il y aura une question de poser, la question concours top opposition, à laquelle vous pourrez répondre. Et en fait, pour pouvoir vous départager, vous devez nous proposer, vous, la prochaine question. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va vous proposer une question pour la Malaisie, vous y répondez, et en même temps, vous nous proposez une question possible pour le Grand Prix pour l'émission de la Malaisie. À ce moment-là, donc, je poserai à Shinji les différentes questions que nous avons reçues. Il choisira quelle est la question qui, selon lui, mérite le plus d'être posée au concours top opposition. Et l'auteur de cette question, à condition qu'il ait donné la bonne réponse, gagnera, quoi.
Voilà. Oui, petite précision, n'oubliez pas de donner la réponse de la question que vous envoyez.
Oui.
Oui. Très, très important. Hein. Ça nous fait gagner du temps.
Des fois, on n'y pense pas.
Oui, et nous, on est un peu dans la merde après.
Donc voilà, hein. Bon, on a un peu coutume à ce que ce soit en fait une question sur le Grand Prix de l'émission. Donc par exemple là aujourd'hui on va vous poser une question sur le Grand Prix d'Australie. Donc vous, quand vous allez répondre à cette question, essayez de nous proposer une question sur le Grand Prix de Malaisie.
De Malaisie. Bon,
ça soit un petit peu raccord.
Donc ça peut être voilà. De Malaisie, pilote malaisien, écurie malaisienne, voilà.
Et donc à chaque fois que vous êtes choisi, vous gagnez un petit coupon et en fin de saison, on fait un petit tirage au sort comme on a fait l'an dernier, un petit tirage au sort vidéo. Et donc à la fin, vous gagnez un petit cadeau. Et attention, je vous rappelle qu'il y a le guide du SAV de la F1. Dont les ventes servent justement à alimenter ce cadeau. Donc plus il y a de ventes, voilà. Plus le cadeau sera chouette, quoi. Donc là, en ce moment, le cadeau sera pas énorme. Vous aurez trois timbres.
Petit, hein, pour donner une idée à nos nouveaux auditeurs, par exemple, l'an dernier, on a offert... donc c'était lequel? C'était celui sur Senna ou celui sur Prost?
Celui sur Senna.
Voilà, on a offert le dossier Michel Vaillant sur Ayrton Senna.
Et n'ayez pas peur, parce que même s'il y a une personne... Genre, par exemple, j'imagine un nom, un mec qui s'appellerait Globen, par exemple, mais c'est vraiment un nom que j'imagine, qui gagnerait 5 ou 6 fois dans la saison,
c'est pas
impossible que, par exemple, si vous appelez Fab, à la fin, vous gagnez tout seul.
Voilà.
En ayant participé une fois.
Voilà. En ayant participé qu'une seule fois, c'est vrai.
En fait, on gagne des chances au tirage au sort.
Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, cette semaine, on n'a pas forcément de questions des auditeurs, donc on va vous poser une question faite maison. Mais la prochaine fois, ce sera une question de l'un d'entre vous, celui qui aura bien répondu à la question qu'on va vous poser tout de suite, qui est de savoir, le Grand Prix d'Australie 2011 était le premier Grand Prix du retour de Pirelli. Mais en Formule 1, quel combientième que c'était de Grand Prix de Pirelli? On essaie de faire des questions qui sont aussi claires que tout ce qu'on vient de vous expliquer, pour que ça soit raccord.
J'ai réussi. Hein.
Voilà, donc en fait, on veut juste savoir, en Australie, combien de grands prix avait fait Pirelli, y compris celui de l'Australie. Il n'y a pas de marge d'erreur, c'est une réponse qui est assez facile à trouver. Donc voilà, pour répondre, c'est pas difficile, vous allez sur fan-f1.com, vous êtes dans la rubrique plus, tout en haut à côté du SAV, vous allez là dans la rubrique plus, il y a contact. Dans contact, vous remplissez le formulaire en précisant bien le destinataire, à savoir le SAV, si vous voulez qu'on vous réponde, c'est à nous qu'il faut écrire, d'accord. Et vous n'oubliez surtout pas, avec votre réponse, de nous donner une question pour le Grand Prix de la Malaisie.
Voilà. Avec la réponse à la question.
Donc voilà, c'était le concours top opposition.
Allez. On arrive déjà à la fin de l'émission. Bah oui, ça va.
Ouais. Bonheur de gloire est arrivé.
Hein. Et on a une petite nouveauté. Vous savez, on termine toujours l'émission forcément en ouvrant sur la prochaine course.
Et le petit pronostic.
Voilà. Et on s'est dit, tiens, hein, puisqu'on invite des guests, faut quand même les faire bosser un petit peu.
Ouais. Ça serait bien qu'on vous emmène voyager.
Ah oh, oui.
Ah, tu as voyagé, Fab?
Ah bah, écoutez, oui.
Et donc, on s'est dit, on va vous proposer un petit défi. Alors, ceux qui sont susceptibles d'être les guests pour les prochaines semaines, ils vont pouvoir se préparer en quelque sorte, parce que, en fait, ça sera toujours le même exercice.
Oui, d'ailleurs, je tiens à dire que Dino est un petit enculé. voilà, je le dis clairement, il a changé les règles en cours de route.
C'est pas vrai.
Dino,
oh, que si.
Dino, rappelle-nous ce petit jeu, ce petit bonus.
Alors, le principe, c'est d'essayer de vous donner à vous, chers auditeurs, grâce à un autre auditeur ou à un membre de l'équipe qui nous rejoindra en cours de saison, de vous donner 7 bonnes ou 7 mauvaises raisons d'aller voir le prochain Grand Prix. Voilà, en sachant que ce qui serait amusant, par exemple, c'est que vous essayez de trouver, par exemple, à un moment donné, 7 mauvaises raisons d'aller à Monaco. Ça serait drôle.
Oui.
Ou 7 bonnes raisons d'aller à Bahreïn.
Alors attention, hein, c'est 7 bonnes ou 7 mauvaises. C'est pas 3 bonnes et 4 mauvaises.
Voilà, n'est-ce pas, Fab?
Attention.
Ah oui, ça va, ça.
Vous avez le choix, mais c'est soit tout l'un, soit tout l'autre.
Et donc chaque guest se prêtera à ce petit exercice, avec des styles parfois différents. Hein. Voilà, il y a en dehors de la consigne de faire soit 7 bonnes, soit 7 mauvaises raisons, et impérativement 7, sur le reste, vous êtes totalement libre.
Alors Fab, quelles sont tes 7 bonnes ou 7 mauvaises raisons de voir le Grand Prix de Malaisie dans 2 semaines?
Alors, moi, j'ai choisi donc 7 bonnes raisons hein, d'aller en Malaisie. Je suis pas particulièrement fan, mais bon, comme ça, au moins, ça donne envie à tout le monde. Alors,
faudrait pas d'écouter les gens, tu vois.
Alors, le mec sympa. Je tiens à dire, pour la rubrique, je place la barre très, 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 très bas. Hein. Donc, les gens pourront faire beaucoup mieux après, ça me fait plaisir. Alors, première raison, c'est une raison économique. Hein, c'est qu'en ce moment, il faut quand même bien le dire, les voyages vers l'Asie sont beaucoup, beaucoup moins chers.
Oh non.
Si. Mais ça va.
Oh non.
Il y a pire. Enfin, il y a pire dans la qualité.
Oh non. Ça, c'est très subtil, mais c'est très...
Première raison, c'est bon.
La deuxième raison, c'est une raison pratique. Hein, parce que même si vous vous y prenez tard, normalement, il y aura quand même des places en tribune.
Hein. C'est vrai.
Troisième raison, un petit peu plus sportive, hein, bien entendu. La Malaisie, c'est quand même 8 vainqueurs différents en 12 éditions. Et c'est 5 vainqueurs différents sur les 5 dernières éditions. Alors, quatrième raison, là, c'est une raison, on va dire, oui, pratique aussi, hein, on va dire. Parce que si vous trouvez la F1 emmerdante, hein, ben, y a des chances que le Grand Prix ne dure qu'une heure.
C'est vrai.
Alors, disons, une raison, là aussi, sportive, qui est liée aux nouvelles technologies, de longues lignes droites, une piste abrasive, des fortes températures, il y a quand même des chances que ça marche un peu.
Oui.
Oui.
Merci. La sixième raison, c'est pour des raisons culturelles, des raisons... La Malaisie est un pays atypique, mais un pays chaleureux malgré tout. En effet, si vous appelez les pompiers en disant « Vite, vite, ma femme a fait un malaise », il y a des chances qu'on vous réponde « Félicitations, vous l'avez appelée comment ?»
C'est la septième raison, non?
Alors, la septième raison...
Je crois le pire.
Non. Tout de même. Donc, après avoir visité le pays du kangourou et celui de l'eucalyptus, il est quand même normal d'aller au pays du Kuala Lumpur.
Je sais pas si je dois être navré par la qualité de la septième par rapport à la sixième.
Ah ouais, mais bon.
Non, honnêtement, c'était une belle première.
Ah ouais.
Merci.
Ouais.
Tu n'as pas mis la barre si bas que ça.
La question, c'est voilà, est-ce qu'il a mis la barre bas ou est-ce qu'il a mis la barre haut? J'ai envie de dire, on ne sait pas vraiment.
Oui, non, on verra après.
C'est un peu comme
toutes ces questions, tu vois, qui nous trônent dans la tête depuis le Grand Prix d'Australie. Voilà. Est-ce que c'est bas? Est-ce que c'est haut? c'est mystérieux.
C'est le mystère des premières. Premier Grand Prix, première émission, on verra bien.
Sinon, sur les pronos, alors, en ne disant pas Vettel.
Ah. Oh, le salaud. Bah, ah,
bon, hein, parce que bon, c'est un petit peu facile. Qui vous voyez, donc j'ai envie de dire qui vous voyez pour la seconde place.
Peut-être pour la première, non, mais peut-être pour la première aussi. Oui. On a passé toute l'émission à dire que ça serait peut-être pas, ça fallait pas forcément dire que c'était cuit, on va quand même pas dire que c'est cuit maintenant. Oh, non.
ça serait dommage.
Alors, une idée, une envie,
Bon, allez, je vais m'aventurer, je vais dire, je vais dire Alonso.
Bon, bah, moi, je vais dire Hamilton.
Moi, je dirais bien un Button, pourquoi pas.
Bah, c'est vrai que les fortes chaleurs, ça peut privilégier ceux qui ne mettraient pas leurs pneus. Ouais.
Bon. Sur ce, nous arrivons là, cette fois-ci, à la fin de l'émission. On espère que ça vous a plu, on espère pour les nouveaux, hein, vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. On espère faire beaucoup de chemin ensemble. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, hein, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez.
On vous invite bien évidemment à nous suivre sur, à nous suivre nous et puis à suivre toute l'actu de la F1 sur fanf1.com. N'oubliez pas les qualifs en direct écrit le samedi matin pour la Malaisie. N'oubliez pas le top 10 juste après la course de la Malaisie, donc pareil le matin à 10-11 heures. Voilà, et bien évidemment le prochain SAV ainsi que la question concours top pas position.
Nous allons nous quitter. C'est une petite tradition du SAV.
Vous permettez, voilà, juste pour faire chier. Vous permettez que je m'auto-remercie.
Oui, c'est vrai qu'on a oublié de te remercier. Ouais.
Non, mais plus sérieusement, je voulais vraiment vous dire merci de m'avoir reçu, même si je l'ai mérité. Non, faut arrêter.
Attends, on doit quand même dire, chers auditeurs de fanf1.com, qui n'êtes pas encore habitués du site le SAV de la F1.
N'y allez pas, il est fini ce site.
Nous vous conseillons d'aller sur www.savf1.fr pour écouter ce magnifique duel que nous avons fait au montage entre Shiji et Fab. Hein. Vous verrez que tout ce que vient de dire ce monsieur qui occupe l'antenne depuis le début de la séance n'est pas forcément vrai.
Hein. C'est bon. Non.
Entre nous deux, on sait qui est Sébastien Vettel. Ouais.
Voilà. Et on sait qui est Néran Kartikeyan.
Non, arrêtez. Non, mais enfin, plus sérieusement, je tenais vraiment à vous remercier, pas seulement pour moi, hein, mais surtout pour tout ce que vous faites, pour l'émission qui est quand même le point de départ, mais pour tout ce qui a été fait après, pour le site du SAV, pour le guide du SAV. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, vous êtes des gens qui font un travail sérieux tout en ne se prenant pas au sérieux. Et ça, c'est quand même très bien. J'ai écouté d'autres podcasts, bon, je veux pas faire le... Enfin, voilà. Et donc
t'en gênes pas, vas-y, balance.
Non, mais voilà. Il y a d'autres podcasts sur d'autres sites qui n'ont pas votre qualité et qui ont des meilleurs moyens. Voilà, c'est juste pour dire ça. Ensuite, alors en ce qui concerne le guide, bravo, parce que c'est quand même un projet qui vous a pris du temps et qui est de très grande qualité. Vraiment, je le conseille. Et puis surtout, j'invite vraiment tous les auditeurs nouveaux de Fan F1 à suivre l'émission, à même essayer de participer aux différents jeux, peut-être même aux émissions, parce que c'est vraiment intéressant. Comme vous voyez, on vous laisse la parole. Il y a pas de problème, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a pas de souci de temps ni rien. Donc voilà, vraiment,
il y a
aucun souci de temps. et donc voilà, non mais merci à vous et puis vous pouvez conclure.
Je me permets de rebondir. D'abord, on vous remercie vous aussi parce que c'est vrai que il y avait une grande question sur le transfert de FanF1, c'était de savoir si vous adhéreriez, si vous comprendriez aussi de notre démarche, et vous l'avez compris, vous participez à FanF1, on vous voit nombreux, vous les anciens auditeurs, et on vous en remercie d'accompagner le SAV de la F1 dans cette nouvelle aventure. Puis on remercie tous ceux qui commencent déjà à nous écouter, qui commencent déjà à parler de nous sur, on a vu plusieurs liens vers l'émission sur différents blogs, etc., notamment le blog de Froissart, et ça fait vachement plaisir, on vous en remercie. N'hésitez pas à faire parler de nous et à faire parler de fanf1.com. Et on veut aussi vous dire que, comme l'a dit Fab est venu là aujourd'hui, mais il y aura d'autres personnes qui vont venir au cours de l'année. Dès le Grand Prix de Malaisie, là, il y a une troisième place qui est libre, hein, contrairement à certaines équipes. Donc Fab va nous quitter aujourd'hui, mais il va être remplacé la prochaine fois. Alors on va dans un premier temps vraiment restreindre de l'antenne, on s'en excuse, mais aux personnes qu'on connaît bien, parce que voilà, il y a un feeling qui est particulier, donc aux anciens auditeurs et aux rédacteurs de fanf1.com. Mais bien évidemment, en courte saison, on intégrera tous les nouveaux auditeurs, il n'y a aucun problème. C'est juste le temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à sentir à l'aise aussi avec vous, parce que voilà, il y a des discussions, il y a des affinités qui se sont formées avec le temps et qu'il faut qu'on reconstruise avec vous. Donc on fera sans doute des jeux pour vous intégrer, etc. en courte saison. Donc voilà, donc ceux qui veulent prendre la place de Fab, hein, il suffit juste de nous contacter. Vous connaissez les moyens pour nous contacter, de nous dire voilà si vous voulez venir. Et puis le premier à vouloir prendre la place nous rejoindra, bien sûr à condition qu'il n'ait pas déjà été trop souvent pendant l'émission, mais bon, tentez votre chance et puis on verra bien.
Voire même, parce que ne pas hésiter, par exemple la place est ouverte pour la Malaisie, mais peut-être que vous avez envie de venir, mais le jour où on va enregistrer la Malaisie, vous n'êtes pas là, n'hésitez pas à le dire. Après tout, on peut tout à fait réserver une place sur une émission un peu plus loin, c'est pas un problème.
Voilà, tout à fait.
Sur ce, comme j'avais commencé à le dire, on va finir sur cette tradition, ce moment de grâce, ce moment de poésie. Dino, fais-nous rêver.
Je dois d'abord rendre tout le mérite à Fab qui m'a bien aidé sur cette citation que je peinais à trouver. Et je ne dirai qu'une chose, si une hirondelle ne fait pas le printemps, le Kers, lui, ne fait pas le meilleur temps.